I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
This is a paid advertisement from BetterHelp. As a podcast listener, you've heard from us before. Today, let's hear from our members about what online therapy has done for them.
I would recommend my therapist 1,000 times over. She has truly changed my life.
The day after my first session, my friends and family said I sounded like myself again for the first time in weeks.
You deserve to invest in your well-being. Visit BetterHelp.com to see what it can do for you. That's better, HELP.com.
Ouais, mais maintenant, avoir des anciennes DM, c'est un luxe, hein. Ça va pas coûter moins cher. Pouvoir les garder, c'est vrai que c'est cool. Pour un mec qui connaît pas, il va se dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont perdu le contrôle. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils sont en travers, ils regardent la route par la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais en fait, toi, dans la voiture, t'es en mode, bah non, là, je maîtrise, là, je sais ce que je fais. Comment c'est possible, dans la physique, de pouvoir freiner aussi tard? Pour moi, une M2, une M3, une M4, ça doit être en dessous de 10 000 euros. Ça me fait vraiment chier de payer une voiture avec 40 000 euros de taxes, tu vois. La moto, moi, c'est vraiment beaucoup plus le sentiment de liberté. Et surtout, les bouchons, c'est devenu un truc de malade mental. Ça me fait vraiment gagner du temps. Je prends ma caméra et il va raconter des gens, des voitures, des machins, ouais. Ça c'est vraiment mon kiff. Les événements comme ça, tu mets vraiment des têtes sur des chiffres.
Alors, aujourd'hui, on est venu jusqu'à, ben, proche de Rennes, quoi. On a fait quand même un sacré trajet pour l'épisode d'aujourd'hui, hein.
Ouais.
Ça va les gars?
Ouais.
Vous avez bien dormi vous?
C'est top, putain, il y a un mec qui vient de passer en vélo dans le bureau.
Ouais. Oh bah les gars, faites pas attention à ce qui va se passer. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va venir pour filmer un peu, parce que moi maintenant je fais des coulisses de ma semaine, donc voilà, ça se peut. Il y a un mec qui arrive, il filme, il se barre, quoi.
T'as un backstage, quoi.
Voilà, on filme un peu les coulisses.
Alors
les
on a une intro pour toi. La nouvelle tradition ici pour saison 3,
okay.
C'est que c'est Joe le stagiaire derrière qui écrit, l'intro. Alors, t'es prêt?
Ok, ouais, je suis prêt.
Dans la région du cidre et de la crêpe, en plein drift, avec sa coupe mulet et en BMW, il nous a fait rêver en combinaison de course au GP Explorer. J'ai le plaisir de vous présenter le breton de YouTube, le Bouzeux.
Ouais, ouais. On est pas mal là.
Et il a passé le test.
Ouais, il a passé le test, c'est pas mal. Là. Tout est réuni.
On peut le garder encore un épisode, ça va.
Allez, on peut le garder, okay. Un épisode, ça marche.
Comment ça va? Merci de nous accueillir.
Eh ben, merci à vous d'être venu, parce que moi, en gros, je suis resté là, vous êtes juste venu. Hein.
Ouais.
Donc, ouais, je suis très content. On va passer un bon moment, on va discuter un peu de tout et de rien, de voiture, de business, je sais rien, de ce que vous voulez parler.
Ouais, bah, ouais. Ben, bien sûr, ça fait longtemps qu'on s'est dit qu'on ouais. aimerait faire ça.
On s'était vu au Qatar.
Y a on s'est vu au Qatar, ouais. T'étais... Avec Joel le stagiaire.
T'étais pas dans le même état, mais on était là.
Ouais, j'étais frais comme tout, ouais, ce soir-là. Ouais. J'étais tout bon, mais sacré truc. Le Qatar, c'était quand même quelque chose. Je sais pas comment.
Ouais, c'était vraiment bien. On a bien profité. Ouais. Après, le Qatar, est-ce que je resterais vraiment 2-3 semaines? Peut-être pas. Là, 3-4 jours, ça m'a suffi, tu vois. Ouais. Les gens sont cool, tu te sens vraiment en sécurité. Donc, on a passé un moment, puis on a découvert aussi un autre univers, une autre tradition. Et c'est le but des voyages aussi,
ouais.
Tu vois.
Ouais, une autre chaleur. Moi, j'avais jamais vécu une chaleur comme ça.
C'était peut-être beaucoup quand même.
42, 43 ouais. degrés, il faisait.
Ressenti,
tous les pilotes
ouais.
de F1, ils étaient en galère de fou. Mais tellement de chance. C'est ça le truc aussi kiffant de bosser dans ce milieu-là avec YouTube et tout, c'est de rencontrer des personnes que tu as aussi. Tu as l'impression de connaître, tu vois, des fois,
exactement.
Depuis longtemps. Et après, tu te vois en vrai et tu peux créer ces amitiés. On se voit aux quatre coins du monde. On s'est vu une fois à Monaco, puis au Qatar. Là, on est dans tes bureaux aujourd'hui et franchement, c'est un plaisir. Et il y a tellement de choses dont on doit parler. On va parler beaucoup de BM,
ouais,
je pense, aujourd'hui.
BM, ouais, j'aime bien. J'aime bien.
Cédric, t'as toujours une BM aussi?
J'ai toujours une 125i,
okay.
Les 6 cylindres en ligne, ouais. de la belle époque.
Ouais.
Parce que ça fait tellement plaisir encore. Tu sais, c'est ces bruits qu'on n'entend plus vraiment aujourd'hui, ouais. dans ces modèles-là. Et que moi, la voiture, elle a une signification spéciale pour moi aussi. Mais je prends mon pied.
C'est ta première voiture?
Ouais, c'était la première voiture. Okay.
Et t'as réussi à avoir une 125i en première voiture?
Ouais, non, mais en fait, c'était de ma mère qui me l'a passé.
Du coup, t'étais assuré en second.
Ouais, voilà,
après,
exactement.
C'était pas comme ça en Belgique?
Non, c'était en Belgique, mais après, je l'ai descendu à Monaco.
Okay.
Et donc là, elle est en société, mais bon, c'est
un peu pire.
Ouais, Hein bah sûrement, ouais. Honnêtement, si je, ouais, si je peux, j'ai pas vraiment besoin de la vendre. Aujourd'hui, ça se vend peut-être 12 000 euros à tout
ouais,
casser.
Mais maintenant, avoir des anciennes BM, c'est un luxe. Hein.
C'est ça, exactement.
Pour partir du principe que là, à partir d'aujourd'hui, les anciennes BM, ça va pas coûter moins cher.
Ah non, ouais, non,
c'est
clair.
Pouvoir les garder, c'est vrai que c'est cool.
Ouais, j'ai mis, voilà, je l'ai reçue, elle avait peut-être 60 000, elle en est à 145.
On ah ouais, elle a bien roulé.
Presque à des 150. Mais ça roule, enfin, c'est juste, honnêtement, le plaisir d'entendre cette voiture. Ça n'a pas énormément de chevaux, mais. Ah ouais, c'est juste, oui, ça suffit ouais. Exactement.
Petit cabriolet.
Putain. Cabriolet à la belge.
T'es en propulsion, donc.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, il a commencé. Tu vois, il commence à apprendre comment faire les petits placements. Ouais, ouais on a nos nouveaux t-shirts. Ton avis honnête, qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien le petit.
Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper sobre. Tu vois, il n'y a pas de bling-bling, donc t'es sûr que ça peut pas déplaire en soi. Tu ouais. Pas, personne peut trouver ça moche. Après, bah, t'es pas en mode waouh, truc de zinzin, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais au moins, bah. C'est de la valeur sûre, quoi.
Bah, parfait. Ouais. Bah, on en a un pour toi, là, regarde.
Oh là 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 là.
Ah, là,
non,
c'est
pas ah non, attends, non, ça c'est pas celui-là. Ah, non, ouais. Ça, c'est celui qu'on a taché au restaurant avant de venir ici. Émeric, il a bouffé. Tiens.
Il a bouffé des sticks mozza, il a trempé dans la sauce. Et le temps d'aller dans sa bouche, ça a coulé. Et
ouais, ouais, voilà.
Merci beaucoup, les gars. Vous connaissez ma taille?
Ben, je sais pas, qu'est-ce qu'on t'a mis?
Vous m'avez pris du XL. Bon, bah au moins, ça va me faire un peu.
Bah, en fait, le thème
vous
de ça.
Vous avez cru que j'étais gros, quoi.
Y a du... Non,
je rigole.
Elle, on sait que tu fais du sport non, et tout là.
Bah, elle aussi, vas-y, les deux.
Vas-y, parfait.
Un noir et un blanc.
Hop là.
Allez, let's go.
Et surtout qu'ils se font un peu oversize.
Ok.
Et si c'est OK avec toi, on va te demander d'en signer un. Et après, quelqu'un qui achète un t-shirt propulsion, peut-être, va finir avec un des t-shirts.
Il sera peut-être pas forcément heureux non plus.
Non, mais si.
Oh putain, non, il me l'a gâché. Il m'a gâché mon t-shirt blanc.
Mais du coup, en parlant de BM et de rouler beaucoup, est-ce que toi tu dois faire beaucoup tu fais beaucoup de kilomètres tous les ans ou tu roules plus quand tu vas faire du drift plaisir ou
ouais je roule quand même beaucoup à travers les routes pas forcément bretonne mais tu sais quand je vais sur Paris
ouais.
Ça m'arrive aussi d'aller souvent en voiture et pas forcément en train quand je vais dans le nord de la France aussi en Belgique des fois j'y vais aussi quand je vais après là, j'ai mon van hein. J'ai un van aménagé
ah trop bien,
du
bien.
Coup, bah,
c'est quoi comme van
c'est un Renault Trafic 3.
Okay, ouais. Ah oui, ouais,
j'ai appelé Renault Patrick. Donc, ouais. J'ai vraiment recyclé et tout. Et donc, pareil, c'est un van où je peux dormir dedans. Donc, j'aime beaucoup la région, les Landes, tu vois.
Ouais.
Dans le sud-ouest. J'aime bien aussi le 34, Montpellier, 7 et tout. Donc, je me balade un petit peu par là et puis je kiffe, quoi.
Trop bien. Trop bien.
Je prends mon temps.
Nous, là, on apprend l'expérience de la vie sur la route, ouais, la vie aménagée, parce qu'on est venu en caravane. Ouais. T'as rencontré Bérangère.
Exactement.
Du coup, ouais, tu l'as,
après, vous, c'est vraiment l'énorme camping-car, ce qui fait que tu ne peux pas passer n'importe où. Moi, c'est vraiment ouais. un Renault Trafic.
Ouais, tu passes
donc, moins de 2 mètres, aussi long qu'une voiture. Donc, vraiment, je peux passer partout.
Et tu peux le garer où tu veux.
Je peux le garer où je veux, ouais.
Ah, ça,
non, c'est vraiment le top. Même les
nous, on est limité. Ouais. Nous, on est limité de fou.
On a dormi sur une aire d'autoroute.
Ouais,
le camion, il était tellement gros. Nous, on a dormi dans un parc quasiment. On était garé sur la route, mais l'arrière était tellement long. Nous, on était dans un parc.
Ouais, c'est ça.
Ce que font souvent les gens qui ont des trucs comme toi, là, les camping-cars, en fait, ils mettent une petite remorque et une 107 dessus, une C1 ou une Smart.
Ouais.
Et du coup, ils se garent en périphérie d'une ville et puis après, ils se baladent avec leur voiture.
Ouais,
ceux qui visent peut-être à l'année avec ou tu mets une moto ou quoi, ça peut être drôle.
Ouais. Et aussi beaucoup ceux qui vont faire du drift vont avoir la voiture de drift, qui vont la prendre en remorque, aller faire. T'as vu la transition là que j'ai.
Ah là 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 là.
On passe au drift.
Ouais.
Parce que t'es fan de ça.
Ouais, enfin c'est de la glisse, hein. C'est pas vraiment okay, du drift parce que du drift c'est sur l'asphalte sec.
Ouais, ouais.
Moi c'est vraiment sur.
Sur le mouillé.
Ouais, sur du mouillé. Donc c'est-à-dire que s'il pleut, bah tout va bien nickel. S'il fait beau, on a un tracteur avec une citerne qui vient prendre de l'eau et arroser la piste quoi. Donc c'est plus simple et l'avantage c'est que tu peux glisser avec des voitures qui font moins de chevaux que du drift où tu es obligé quand même d'avoir un minimum de chevaux pour l'emmener directement en drift quoi.
Parce que toi t'as ta voiture drifteuse que
j'ai ma petite drifteuse
c'est
une 325 TI 46 compacte donc TI reprog éthanol, elle fait 207 chevaux là. Je l'ai vidée donc faire un peu plus d'une tonne, une tonne deux, j'en sais rien. Je l'ai pas pesé. Mais vraiment, vraiment le top quoi.
Et ça t'est venu d'où cette envie?
La boiserie. Il m'a dit je suis à l'Oyac là, petite journée glisse, est-ce que ça te tente de venir? Tu testes et on voit si tu kiffes quoi. Et j'étais venu et j'avais trop kiffé. J'étais avec Babas à l'époque. J'ai passé une journée de dingue.
Ouais, j'imagine.
Du coup, bah, après, je me suis dit j'achète la mienne quoi. Tout simplement.
Mais non, c'est les mêmes voitures qu'on avait fait pour le.
Ouais, on était allé à Tignes.
On avait fait des 318 TI qu'on avait fait sur la glisse, sur la glace. Ouais, non, ça, c'est hyper amusant.
La famille, l'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par pistonaddict.com, la plateforme pan-européenne pour la vente en ligne de voitures de collection et d'exception. Bon, Cédric, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus de comment ça marche exactement, Piston Addict ?
D'accord, mais en tant que vendeur ou acheteur, surtout vendeur, vous mettez votre voiture en ligne sur la plateforme. Vous avez le choix d'un prix de réserve, ce qui vous enlève un peu tout le risque dans votre vente, c'est-à-dire vous choisissez un prix minimum auquel vous voulez qu'elle se vende.
Très bien.
Et ensuite, Piston Addict s'occupe pendant les 7 jours de la vente du marketing de votre voiture. C'est quand même pas trop mal, ça.
C'est magnifique. Et est-ce que, mon Aymeric, t'as fait un petit tour pour trouver une voiture qui te disait ?
Alors, j'ai fait un petit tour. C'est vrai que le site est pas mal. Et j'ai trouvé une Alpine A110 avec une super configuration et un prix de départ dans les enchères à 12 000 euros. Donc, c'est quand même assez cool. Bon, après, elle ne se vendra pas ce prix-là, je pense. Mais
ouais, ça donne toujours envie. Et en plus de ça, on vous a négocié la gratuité des frais de mise en service pour le pack classique vendeur. Juste avec le code qui s'affiche sur l'écran maintenant, Propulsion. Et aussi, je vous conseille d'aller sur Piston Addict pour vous mettre sur la newsletter parce que ça vous permet de suivre toutes les nouvelles voitures qui arrivent en vente. Franchement, c'est fascinant juste de suivre les prix. Ça donne une très bonne idée aussi des prix du marché en ce moment. Mais tu sais jamais, il y a peut-être une voiture qui t'intéresse, qui arrive. Par exemple, moi, j'ai trouvé une Porsche 996 que j'ai trouvé très sympa. Toi, tu as trouvé une Ferrari, il me semble aussi.
Une 348 TB, assez mignonne.
Assez mignonne. Bon, toutes ces voitures risquent de plus être en vente sur le site quand vous regardez ça. Mais il y a toujours des voitures très intéressantes de collection et d'exception. Pistonaddict.com, merci pour votre confiance. Merci de soutenir Propulsion. Et on va continuer avec l'épisode d'aujourd'hui. C'est addictif comme truc parce que c'est cette sensation d'être sur la limite et que t'es vraiment, t'es à deux doigts de complètement perdre le contrôle de la voiture, mais tu la tiens et t'as l'impression d'être en contrôle. T'es en contrôle parfait sans être en contrôle du tout, en quelque sorte. Je sais pas, je l'ai très mal expliqué, mais tu vois ce que je veux dire. Et cette sensation est addictive.
Pour un mec qui va regarder, qui va venir voir, qui connaît pas, il va se dire mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont perdu le contrôle. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils sont en travers, ils regardent la route par la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais en fait, toi dans la voiture, t'es en mode bah non, là je maîtrise, là je sais ce que je fais.
Ouais. La sensation quand tu tapes ton premier bon drift, c'est genre ça, c'est.
Moi, ça m'a surpris de ouf. J'avais jamais fait ça de ma vie. Ou sur un parking, tu fais un frein à main, machin, mais. Là, c'était quand tu vois que tu gères, tu te dis, mais en fait, c'est faisable, genre, tu vois. Mais par contre, ça me ferait peur sur circuit et tout, moi.
Non, justement, au circuit, c'est fait pour.
Ouais,
c'est pas sur de la route, tu vois.
Ouais.
Parce qu'il y en a, malheureusement, qui s'entraînent dès le début sur des ronds-points.
Oui,
avant de faire du circuit, ce qui fait que, du coup, ça peut être dangereux.
Et le truc magique sur circuit, c'est que tu peux vraiment gérer cette transition quand tu pars complètement d'un côté, puis tu la rattrapes et t'arrives à la contrôler quand elle repart de l'autre.
Ouais, t'es pif-paf, quoi. Ouais, j'appelle
pif-paf,
ça
s'appelle. Okay.
Moi, je vois, j'appelle ça comme ça. Mais tu prends le virage à droite, hop, tu gardes ta glisse et hop, transition vers la gauche.
Ouais.
Et tu peux faire, un mec très chaud fait le circuit anti, en fait.
Ouais.
Mais même sur une ligne droite, il peut gérer des droites-gauche, tu vois.
Mais il faut aller vachement vite quand même, non?
Sur du mouillé, pas trop, tu vois.
Ah ouais.
Genre, moi, je sais que j'ai Dobby, un collègue, là, il a acheté une 320i36. Pour moi, c'est le minimum, t'as 140 chevaux. Elle est même pas préparée ou quoi, juste le pont soudé. Et ça marche, tu vois.
Ouais.
Ça marche.
Et toi, t'as toujours été fan auto ou
ma famille a toujours été dans l'automobile avec mon papy, mon papa, toute la famille, quoi. Mais après, moi, il y a une période, j'étais pas forcément à fond là-dedans. Et je m'y suis remis à partir du moment où j'ai eu le permis, quoi. J'ai eu le permis à 19 ans, tu vois, pour te dire. Parce qu'au début, j'étais un kick scooter. Et avec le scooter, j'arrivais à tout faire. Donc je me suis dit, pourquoi passer le permis? Surtout que j'habitais en campagne. Et après, je me suis dit, je passe le permis. Et là, je me suis intéressé vraiment à fond.
Ouais. Et une fois, encore une fois, quand c'est bon, tu y es, t'as compris ce que c'est l'automobile, tu commences à regarder tous les modèles différents, tu trouves ta marque. Souvent, BM, c'est quand même, j'ai l'impression que moi, avant que j'ai eu la chance d'avoir une BM, je t'avoue, je ne comprenais pas trop le truc BM. J'aimais bien, mais je n'avais pas encore cette passion où tu comprends vraiment le concept de ce qu'ils veulent faire à travers les voitures. Aujourd'hui, peut-être qu'ils ont perdu un petit peu
c'est une discussion. Là, même si BM, ça reste quand même une marque de zinzin, ils sont là depuis, il y en a, ils oublient, mais c'est là depuis l'avant-guerre, je crois.
Pas
de bêtises. Moi, je me rappelle, j'ai mon tonton, il était arrivé chez moi là avec une BM avec le logo rouge. Au lieu du bleu, c'était du rouge à l'ancienne.
Ouais.
T'as la rêve, toi, de ça?
Je pense bien. Je pense que c'était c'est un peu comme chez Rolls-Royce, c'était la même chose. Les anciens pré-guerre, c'était rouge.
Ouais.
Après, c'est devenu
magnifique. Franchement, incroyable. Et du coup, là, en ce moment, il se dirige vraiment vers ce qui se vend le plus aussi, tu vois,
ouais.
De l'hybride. Et après, voilà, ça fait débat, ça, c'est électrique, machin. Bon.
C'est comme ça, mais c'est comme sur les nouvelles séries 1, où moi j'ai commandé une 135i, là.
Les nouvelles ?
Ouais, les nouvelles.
Ouais. Ouais. La 135, c'est du traction ?
C'est du traction.
Ouais, traction. Ouais.
Moi, je l'ai pris en X-Drive, donc c'est 4 roues motrices, mais okay. c'est pas propulsion. Les 140... de l'époque, ça ouais. C'était une vraie voiture ouais. De ouais.
Les 135, les biturbo en propu aussi, ça ouais. C'était incroyable, je veux dire, c'était la caisse à avoir. Aujourd'hui, qui cote d'ailleurs pas mal ouais, encore, ouais. Hein. C'est, ouais. C'est assez impressionnant.
Ouais, les séries 1, c'est vrai que ça marche. Moi, j'en ai jamais eu, mais c'est vrai que les séries 1, ouais, ça marche plutôt bien, surtout chez les jeunes. Du coup.
Pour une entrée de gamme, je veux dire, c'était quand même incroyable d'avoir un moteur comme ça.
Le truc qui fait peur maintenant, c'est que tous les prix ont tellement explosé que quand tu regardes maintenant les prix de l'entrée de gamme. Ça fait bader. Et aussi, maintenant, tu as les manus. On a peut-être une liste. Je te mets un peu en surprise, là. Je ne sais pas si Oula. Tu l'as devant toi. Mais on a une liste des prix en 2024 des BMW avec malus.
Donc, les sportifs, du coup, les M
ouais,
plutôt.
Mais pas que. Ouais, que ouais. Les MX4 et les trucs comme ça.
Parce que moi, je m'étais renseigné pour en daily une 330, une 340i ou une 330e.
Ah, c'est beau, ouais. Ouais,
c'est et pareil, déjanté. Tu vois, c'est déjà... même si la E, ça va, ça reste quand même des prix... cher quoi.
Ouais, ça coûte super cher. Donc tu vas nous donner le modèle, on va essayer de rapidement deviner et mettez sur pause si vous écoutez ça aussi, essayez de deviner et après remettez sur play et vous allez voir si vous avez eu bon.
Attachez vos ceintures.
Voilà,
c'est alors petit. La X4M qui vaut 200 000 euros.
La X4M qui ouais. Coûte 200 000 euros.
Ouais, de base, déjà. Sans malus.
Ouais, c'est ça qu'on dit.
Sans malus.
Oui, mais c'est full option. Non, mais c'est full option.
Je pense c'est full option. C'était le prix d'avant. Je sais pas si c'était le prix d'avant ou pas, mais ça passe de 200 000 à 260 000 euros. Pour une X4M, bon, certes,
tu peux acheter une autre voiture.
Bonne voiture. Ah,
tu prends une M3 F80, quoi, c'est le 60 000
et
euros.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
C'est
ce qu'il faut. 000 euros, ouais. Ouais.
Ah, ça n'a pas de sens. What bon, la fuck. Prochaine. Ouais, un X3M. Vous pensez que ça vaut combien à peu près?
Bah, c'est un peu en dessous, du coup.
Un peu.
140
176 900 euros.
Wow, c'est choquant quand même. Hein. Et t'en as des non-M ou non
Le pire, c'est que ouais, c'est le prix d'un Cayenne turbo hybride. Ça vaut dans les 170 000 euros, ça, non ?
Non, non, mais même, c'était le prix à l'époque, par exemple, des premières 997 turbo, tout ça, des 911.
Ouais, mais là, en hybride, t'as pas le malus.
Non, non, oui, mais je dis, quand tu regardes les prix, l'évolution des prix des voitures en pas si longtemps, enfin, c'est des voitures que... Enfin, c'était des mythes quand ouais. On grandissait. Quoi.
Ah non, c'est clair.
Même genre la 430 Scuderia, quand elle est sortie, t'étais au même prix que la X4M, voire moins. Mais
exactement.
T'imagines ?
Ça, je me disais, tu as des voitures qui aujourd'hui valent 180 000 euros. À l'époque, 180 000 euros, tu t'achetais une 599 GTB d'occasion, enfin, qui avait rien comme kilomètre, des trucs comme ça, sans problème. Une voiture neuve chez Ferrari, ben, par exemple, une 599 à l'époque, ça valait moins de 300 000 euros sans option.
Ouais.
Tu vois, aujourd'hui, les nouveautés, c'est
on est, quoi on c'est les matériaux, c'est le fait que les gens sont de plus en plus riches.
C'est juste que c'est ça. C'est le fait que les concessionnaires se rendent compte que les gens peuvent payer plus.
Okay.
Et il y a des nouveaux systèmes de financement aussi. Maintenant, avec le leasing, le LOA, tout ça, tu peux acheter des voitures qui sont beaucoup plus chères que ce que tu pouvais avant. Tu peux te permettre.
Ouais, mais bon.
C'est pas nécessairement une bonne chose. C'est ça le truc. Souvent, tu vis en dehors de tes moyens.
C'est peut-être pas que tu peux te le permettre, mais je pense juste que tu as plus accès.
Ouais, voilà.
Donc les gars, ils se sont rendus compte que si tu as accès à ça, eh ben, tu peux payer plus. Et donc, on va se faire beaucoup plus d'argent comme ça.
Moi, je suis tombé sur un réel l'autre jour sur Instagram, sur les anciennes Porsche, des anciennes annonces. T'as vu ce truc ?
Bien sûr.
Une Porsche valait 25 000 euros, enfin une classique. Maintenant, elles sont dans les 80 000.
Ouais, ah,
une turbo valait 80 000 balles, enfin francs. Aujourd'hui, ça vaut, je sais pas combien ça vaut.
Et ben, dans les années 60, une Shelby Cobra, ça valait 6 000 dollars.
T'imagines.
Tout est relatif.
Et même il y a pas longtemps, il y a un YouTuber que je regarde, un anglais, qui s'appelle Harry Metcalf, qui avait posté. Il hésitait à l'époque entre une Pagani Zonda à 220 000 euros et une Ferrari 288 GTO à 140 000. Maintenant, la Pagani, elle est à 6 millions et la GTO, elle est à 3-4.
On sait laquelle il a choisi ou pas ?
Il a pris la Zonda, ouais.
Une voiture qui te concerne, Seb, une M3 Touring, tu crois que ça va valoir combien en 2024 ?
Je crois que je sais, je crois que c'est vers 180 000. Hein.
Juste c'est en dessous, 178 000 euros.
Ouais, mais c'est chaud.
170
000. Moi, j'adore cette voiture, mais ouais. Tu sais quoi, faut que tu l'as. Ah non, ben.
Ouais, t'es pas avec là.
Je suis pas avec là, mais faudrait que tu l'as.
Tu vois, tu fais entrer de Bérangère si tu veux.
Après, j'avais essayé la M3 G80, donc la version berline, mais.
T'as aimé ?
Pas la Touring, tu vois. Mais oui, j'ai bien aimé. Ouais. Ouais.
Par contre, une M4 compétition, bon, ça disons, ça envoie. Ouais. Là, on est à 172 000 euros, donc ouais, moins cher que la M3 Touring.
Ouais, mais bon, une M4 compétition, 172 000 euros. Ouais, non, mais c'est pas une M4, c'est pas pour
c'est
ça.
C'est choquant.
Non, après et toi, être choqué, ouais, la dernière de la liste, ça, c'est tout DM parce que, bien sûr, c'est ce qui a le plus haut malus, on va dire, en termes d'écologie et tout. Une M2, la nouvelle M2.
Je sais pas, 110
143 000 euros.
Bah, ça fait chialer quand même.
M2. Wow.
Pour une M2.
Elle vaut combien de base, elle ?
Elle vaut 82 000 euros.
Ah ouais. Ouais. Et c'est en Europe ou en France ?
Non, c'est en France seulement.
Ouais, c'est vraiment en France.
Enfin bon, là, en Belgique, t'as une écotaxe aussi, t'as plein de pays qui commencent à suivre. Mais la France, c'est vraiment où c'est le plus. Mais
le truc, c'est. Attends, parce qu'en France, tu payes le malus et après, c'est bon. C'est... Tous les ans, t'as encore des trucs que tu vas payer ou...
Tu payes des. Ça, je sais ouais, pas. Moi, j'ai pas de voiture en France exactement.
Non, une fois que c'est payé, je crois que c'est payé.
Ouais. Ah oui, le malus, ouais, c'est bon. Après.
C'est qu'en société malus, oui, où t'as des réintégrations.
Parce que tu vois, par exemple,
des trucs, mais...
en Suisse, t'as des voitures, une M3, c'est 4000 par an.
Mais ça, c'est l'assurance.
Non. C'est une écotaxe annuelle. Ah. Et donc, du coup, tu la gardes 10 ans, ça revient quasi au même, quoi. Donc
ouais,
voilà.
Bon, tu ne regardes pas 10 ans, quoi. Général.
Bref, ouais, voilà sur les prix des BMW.
Ouais.
Vous avez vu, ouais.
C'est hallucinant.
Ça choque un peu. Hein.
Pour moi, une M2, une M3, une M4, ça doit être en dessous des 100 000 euros.
Ouais. Il faut. Après, le truc qui est magique, c'est avec ces voitures, tu peux en trouver. Elles tiennent tellement bien les kilomètres que tu peux en trouver un peu kilométrées quand même à des bons prix.
Ouais.
Donc, comme tu as dit, une F80, il y a des trucs comme ça où tu peux en trouver encore. Toi, tu as toujours été plus dans cette optique-là, non ? Avec des voitures d'occasion ou...
Ouais, bah après, c'est plus accessible aussi, surtout. Hein, ouais. Parce que là, moi, je ne peux pas me permettre là, de... Enfin, ça me fait vraiment chier de payer une voiture avec 40 000 euros, 50 000 euros de taxes, tu vois.
Ouais, non, bien sûr.
Genre, c'est en dehors de mes principes, tu vois. Genre, ça me ferait vraiment chier.
Mais quand tu l'achètes d'occasion, c'est pareil. En fait, le mec, il...
Mais c'est dégressif, en fait, par rapport aux années. Le malus en France, c'est chaque année, ça descend par rapport à l'âge de la voiture, on va dire. Donc, ouais, si t'as une voiture qui a 10 ans, tu récupères beaucoup moins de malus qu'une voiture neuve aujourd'hui. Ouais. Et ça tue le marché du neuf, quoi, complètement. Ouais. J'ai entendu que, enfin, on en parlait une fois, mais Audi, ils ont retiré la RS3 du catalogue en France.
Ouais.
Parce que tu vas payer une RS3 à 140 000 euros, même plus.
Mais dis-toi, c'est pareil aussi pour les motos. Vous n'êtes pas trop moto, mais les motos, c'est pareil. C'est, y a des marques vraiment emblématiques. On n'a plus parce qu'ils n'arrivent pas à faire les normes euros, quoi.
Et toi, d'ailleurs, t'as quelques belles motos, là. T'as deux belles motos, je pense.
Bah, j'ai une petite 50, une Fantique, pour me taper un délire. Et j'ai surtout un GS, quoi, un 1300 GS.
C'est top, ça, non ?
Ouais, c'est top, ça.
Tu sais que je suis, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je suis un peu amoureux de cette moto. Ça, c'est l'amour de passage.
Ouais.
Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je regarde vachement ces motos. Mais le prix qu'elles valent...
Ah ouais, bah moi, là, c'est 27 000, ouais. 27 000, une moto.
Mais après, je sais que tu peux tout faire avec cette moto. Mais moi, j'ai le scooter et je me dis, est-ce que je passe pas sur une moto confort où tu peux un peu t'amuser, tu peux partir en vacances un peu. Ouais. Mais quand je regarde les prix, ça fait mal au cœur, quoi.
Ouais, ça fait mal au cœur. Je vois ce que tu veux dire. Mais, bon,
mais t'es plus en moto ou en voiture au quotidien ?
Bah, la moto, moi, c'est vraiment beaucoup plus le sentiment de liberté. Et surtout, bah, à Rennes, là, vous vous rendez pas compte, mais les bouchons, c'est devenu un truc de malade mental. Par rapport à il y a 5-10 ans, là, mais c'est insane. Donc là, la moto, ça me fait vraiment gagner du temps.
Ouais.
Dès que je dois aller en centre-ville, même s'il pleut, s'il neige, j'y vais en moto. Bah, neige, peut-être pas, j'abuse, mais j'y vais en moto parce que je sais que je vais gagner énormément de temps. Pareil, quand je dois prendre la rocade ou le périph', quoi, je prends la moto parce que, ouais, interfile, là, tu
mets. Même s'il pleut ?
Ouais, même s'il pleut. Ah, même s'il pleut, je la prends.
T'es un vrai motard parce que
t'es combi, quoi.
Non, parce que je sais que je vais gagner du temps derrière.
Ouais.
Après, le plaisir, bah, forcément, il est pas trop là, quoi.
Voilà.
Après, j'ai. Sur le GS, tu vois, j'ai le truc pour la pluie, pour le vent. Non, j'ai poignée chauffante, siège chauffant, tu vois, je suis bien, quoi.
T'es un vrai motard.
Ouais, je sais pas si je suis un vrai motard, mais j'aime bien, quoi.
Et t'as toujours été ici, dans le coin. T'as vraiment cette passion pour le coin ici. Nous, tu nous as accueillis comme des rois aujourd'hui, donc merci énormément.
De rien, mais.
Et il y a un peu, c'est comme on en avait parlé dans le podcast quand on est allé en Belgique et que. Enfin, tout le monde est sympa, tout le monde est accueillant, et il y a un peu la même ambiance ici.
Ouais, ouais.
Et je comprends parfaitement pourquoi t'es ici, t'es vas-y ici, t'as décidé de rester ici. Grand fan du club de foot aussi.
Ouais, du Stade Rennais, ouais, forcément. Ouais. Non, je suis né à Rennes. Mes parents ont toujours habité. Parce que moi, je fais partie du mec qui habitait à 30 minutes de Rennes, d'une grande ville, tu vois.
Ok.
Donc c'était autour de Rennes. Et après, moi, quand j'ai été étudiant. Je me suis mis dans Rennes. J'ai juste fait une petite escale à Mayenne, donc à côté, la Mayenne, voilà. Après, je suis revenu directement à Rennes et c'est là où je me plais bien. Tu vois, je suis heureux ici. Ouais. Bien, j'ai ma famille, j'ai mes potes, j'ai mes collègues, j'ai mon taf, tu vois, j'ai tout. Et, ouais. Et le climat ici, j'adore parce que l'été, il fait pas trop chaud. L'hiver, il fait pas trop froid. Bon, certes, je suis d'accord avec vous, il pleut pas mal. Mais non, vraiment, ça me fait plaisir. On a vraiment toutes les saisons, tu vois.
Ouais, non, c'est vrai. Et là, surtout, t'as créé tes bureaux. On est assis dans tes bureaux aujourd'hui. Et je suis sûr que tout le monde ici a déjà vu beaucoup de ton contenu. Ouais. Et c'est cool de voir un peu les backstage pour nous. Ça va être dans un vlog qu'on va créer aussi sur ma chaîne principale pour montrer un peu tout ça. Et sur YouTube aujourd'hui, donc tu fais quand même pas mal de contenu des fois de voiture.
En fait, ça dépend de mes moods, tu vois. Il y a des moods où je vais être à fond bagnole, surtout l'été, printemps, été. J'adore ça parce que tout le monde dort. Tu vois, tu peux faire des rassos et tout. C'est vraiment incroyable. Ouais, ça va dépendre de mon mood. Mais après, là, évidemment, j'adore les quais, j'adore la bagnole, j'adore la moto.
Ouais. Mais j'aime ça avec ton contenu. C'est pas prise de tête. Et je pense que quand tu fais ces vidéos et que tu tombes un peu dans ce truc de tout le temps te mettre un peu trop la pression, ça peut devenir compliqué.
Moi, ce que je kiffe par-dessus tout, je prends ma caméra, mon micro sur la cam, mon petit trépied, et je me barre et je vais raconter des gens, des voitures, des machins, je me balade, je voyage. Ça, c'est vraiment mon kiff. Tout.
Ouais. En soi, au début, oui, peut-être avec le gaming et tout ça, mais tu t'es pas tellement catégorisé que ça. Je pense que tu peux faire une vidéo sur des voitures, comme tu peux en faire sur du gaming, comme tu peux faire rencontrer avec des potes. T'as vraiment cette image qui est
Sur YouTube, quand on arrive dans YouTube, souvent on est dans une case et le but, c'est vraiment d'en sortir le plus vite possible. Donc au début, dans cette case-là, moi sur Fortnite ou sur Clash Royale, je faisais mes vidéos en balle, tac, 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 tac. Et petit à petit, de temps en temps, une vidéo par mois, après une vidéo toutes les deux semaines, une vidéo toutes les semaines, je faisais autre chose pour les habituer aussi. Au fait que moi aussi j'aime peut-être la moto, moi aussi j'aime les voitures radiocommandées, moi aussi tac. Et puis après les gens suivent ou pas, mais en tout cas vu que je reste le même, que ce soit sur une vidéo Fortnite ou sur ma vidéo IRL, ma vidéo dans la vraie vie, les gens en fait ils se sont dit putain, mais en fait c'est un mec comme nous, trop bien, vas-y, je vais continuer de le suivre même s'il fait plus trop de Fortnite. Et puis c'est comme ça que...
C'est exactement ça, parce que les personnes qui te regardent ont plusieurs choses qui les intéressent, ils vont regarder plein de vidéos différentes. Ouais. Et donc c'est plus authentique, c'est plus naturel. Tu montres en fait ce qui t'intéresse. Un jour, ça va être une chose, un jour, ça va être un autre. On se fait tous des kiffs de rentrer dans un sujet, être à bloc dedans pendant genre 5-6 mois. Et après, tu t'en lasses, tu passes à autre chose.
Ouais, exactement. Et puis tu reviens peut-être un mois après, tu vois, parce que tu vois que ça te manque. Et puis et voilà, ouais, c'est vraiment le kiff absolu.
Ça fait combien de temps maintenant que tu fais...
J'ai commencé moi par Twitch, donc en 2015, juillet 2015, et YouTube octobre 2015. Donc ça fait 8 ans, ouais, un peu plus de 8 ans.
Et comment tu question perso parce que ça m'intéresse moi, tu décrirais la différence entre un Twitch et YouTube? Enfin, c'est complètement différent le contenu, mais en étant, disons, entre guillemets, Twitcher ou YouTuber, la différence dans ces deux vies. Très différent. Vidéos. Twitch live et
non, ça se complète, Twitch, ça se complète super bien parce que moi Twitch c'est du live, donc tous les jours ou tous les deux jours un petit live de 2-3 heures. Après ensuite j'ai des monteurs qui vont faire des best-of pour mettre sur la chaîne secondaire. Mais vraiment Twitch c'est du live et pour moi YouTube c'est de la VOD, donc de la vidéo où tu regardes quand tu veux, et c'est vraiment ça la différence, mais tu peux vraiment faire les deux, tu vois.
Aujourd'hui tu continues à faire 2-3 heures par tous les deux.
Ouais parce que je kiffe. Twitch, le fait d'avoir un chat en direct, des gens en direct qui te regardent, moi ça m'apporte vraiment ça fait un peu suceur mais bonheur, tu vois. Parce que j'ai vraiment le chat, tu vois, je discute avec eux en direct, c'est pas juste des commentaires, tu réponds machin. Il y a vraiment ce petit truc chaleureux qui fait que ça m'apporte un équilibre incroyable dans ma vie, quoi.
Et puis c'est ultra engageant, non, j'imagine, avec le chat tout le temps de répondre.
Engageant, ouais. Puis t'as des gens fidèles. Non, ça fait trop plaisir, quoi. Je suis vraiment trop bien avec ça.
Et tu prends l'habitude aussi à faire ça. Ça fait longtemps que tu le fais maintenant, donc c'est un plaisir parce que tu communiques avec des personnes, t'apprends à travers eux, tu rencontres des nouvelles personnes à travers ça, mais aussi ça devient un peu comme routine. C'est peut-être pas le bon mot, mais une habitude d'avoir cette connexion avec ce monde-là, de cette manière-là aussi, à travers les réseaux, à travers une plateforme comme
Moi, je vois ça comme du partage. Hein. Je partage ma vie, quoi. Je partage ce que j'aime. Je ne me force pas, que ce soit sur Twitch ou dans les vidéos, à faire des trucs que je n'aime pas. Je fais que ce que j'aime. Et puis après, les gens kiffent ou les gens kiffent pas. Mais voilà, au moins, dans mes vidéos, tu ne peux pas me voir malheureux, quoi.
Ah, c'est sûr. Et l'ampleur que ça... Je pense que personne dans ce milieu, il y a 5-10 ans ou quoi, pouvait imaginer l'ampleur que ça allait prendre.
Ouais.
Quand tu vois un événement comme le GP Explorer, dans lequel t'as participé, c'est fou. Enfin, tu vois ça. Nous, on y était avec Joe qui est derrière la caméra là, et ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment choqué.
En fait, ça, les événements comme ça, tu mets vraiment des têtes sur des chiffres.
C'est ça.
Et ça, il n'y a rien de mieux. Parce que les gens, et surtout avec YouTube, tu vois, ils se disaient, mais c'est quoi ce bordel? Parce qu'ils voient des chiffres, des millions de vues, peut-être même des milliards pour la chaîne, par exemple. Moi, ma chaîne, elle a 1 milliard de vues en tout. Et là, ils pourraient se dire, mais c'est du fake, c'est pas possible. Et en fait, là, quand tu organises des événements comme ça, c'est là que tu te rends compte que non, c'est vraiment vrai. Il y a vraiment des personnes derrière. Et les médias comme la télé, ils se disent, ah ouais, putain, en fait, eux, ça rigole pas. Et, ouais. Et non, c'est top, quoi.
Ouais, ça concrétise, ça rend le truc réel, ouais. Ouais.
Et, ça fait peur à quelques chaînes, je pense, non?
Des chaînes, des trucs, ouais, ben, plus classiques, plus old school, ouais, c'est sûr que
tu vois que maintenant, il y a des chaînes télé qui viennent sur Twitch, tu vois, qui viennent essayer de faire des concepts et tout, parce qu'ils savent que les jeunes, qui seront les vieux de demain, bah, ils sont ici.
Ouais, c'est ça.
Ce qui est fou, c'est qu'ils ont... Ouais, vous avez crédibilisé le truc. Et les chaînes, je pense, vous prenez un peu de haut en disant non, mais les influenceurs, machin. Enfin, je sais pas. Hein, j'imagine. Et après, en fait, là, avec ce qu'il a fait, votre ami, c'est un truc de malade. Ça a concrétisé le truc, quoi.
Ouais. Ah, c'est sûr. C'est sûr.
Le nombre de personnes, il y avait combien de personnes déjà?
70 000, je crois. Ouais, 45 000, je crois, la première
viewers,
édition.
Ouais, les viewers en même temps, plus d'un million, c'est juste malade.
Ouais. Et le truc, c'est que tout le monde peut le voir aussi, les chiffres. Tu vois, souvent sur d'autres, tu sais pas trop, enfin, combien ils vont poster, etc. Mais tu sais pas trop. Et là, de vraiment pouvoir voir en live combien de personnes sont en train de regarder avec toi. Et surtout quand on dit 1,3 million, je crois que c'était.
Ouais, 1,2 million, 1,3 million, ouais. Je sais plus exactement.
T'imagines le nombre de personnes qui regardent aussi tous ensemble devant un écran, ouais. Tout ça. Donc en vrai, 1,3 million, c'est gentil. Puis t'as les personnes sur place, les rediffs après, c'est énorme. Ouais. Et pour toi, faire partie de ce genre d'événement, c'est...
Ah ben moi, je suis ultra content, mais tu peux pas savoir à quel point ça, ça mélange mes deux passions, la voiture et la création de contenu YouTube. Et c'est vraiment le Graal, je pense que c'était le meilleur moment de ma vie, tu vois.
Ah ouais.
Je me suis pas marié, je suis pas encore eu d'enfant, etc. Donc voilà, ça a peut-être changé, mais ouais. Là, vraiment, ça mélange vraiment toute ma vie, quoi.
Comment ça s'est fait, c'est Squeezie qui t'a appelé un jour, qui t'a dit « j'ai cette idée, est-ce que tu veux participer ?» C'était quoi le...
Comment ça s'est fait? En fait, c'est Bump qui m'ont contacté. Okay, ouais. Donc Bump, l'agence de Squeezie, de pas mal de créateurs. En fait, j'étais dans ma voiture, j'allais à la boulangerie, je m'en rappelle toujours, et je reçois un appel. Et il me dit « ouais, tiens, t'es prêt? Est-ce que t'es posé, machin ?» Parce que... Donc là, je me gare, et là, il m'annonce tout ça. Et là, je suis comme un gosse, tu vois. C'était pas Squeezie, mais c'est en fait Squeezie donne, oui. Je pense, donne son accord. Après là-dessus, on en a pas discuté, mais je pense que il voit bien, vu que c'est quand même quelqu'un de proche de lui. C'est quelqu'un qui kiffe pas trop, je pense qu'il m'aurait pas invité, mais ouais, vraiment, j'étais comme un gosse. J'étais en mode, bah, bien sûr, même s'il y avait 10 éditions, 15 éditions, 20 éditions, je ferais tout.
Tu m'étonnes, parce que quand tu as dû entendre le concept, moi je me rappelle la première fois qu'on m'a parlé du concept, je me disais, wow, c'est tellement gros. Il y a tellement, je pense qu'on peut même pas imaginer. T'essayes de te dire, tu vois le truc, tu dis ouais, ça doit être tellement d'organisation et tout, mais toutes les petites choses, les baraques de bouffe, tu vois, sur le circuit, où est-ce que les gens vont se garer, les transports, les hôtels autour, enfin tout, tout ce qui va dedans, c'est énormissime.
Ouais.
Pour toi, ça a dû être un kiff parce que t'as ta préparation physique et toi, mais en vrai, l'événement en lui-même, il y avait pas grand-chose de ton côté.
Nous, on est les pilotes. Les pilotes, j'aime bien dire ça. On est comme des chefs, c'est-à-dire que ils ont fait en sorte qu'on soit dans notre bulle.
Ouais.
Donc, on avait vraiment un physio chacun. On n'avait pas plusieurs, vraiment un physio chacun. Et il me dit, OK, à cette heure-là, on va là. Et à chaque fois, on le suit, quoi. Il nous dit quoi faire, etc. Et du coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps de se dire que... on n'a pas le temps de stresser, quoi.
Ouais.
Tout se passe nickel. Et franchement, là-dessus, l'organisation, ils ont ultra bien géré. Et ils le savent, on les a déjà remerciés. Et franchement, c'est top, quoi. Que ce soit pour l'image du GP Explorer, l'image de nous, les créateurs de contenu, même l'image du circuit. Le circuit du Mans, quand même, le circuit Bugatti.
Ouais.
Franchement, ça fait du bien à tout le monde, quoi.
Est-ce que comme, on va dire, comme répercussion de l'événement, tu as eu, disons, beaucoup plus de gens qui te suivent derrière, qui t'ont apprécié par rapport à ça? Ou alors, la plupart des gens qui regardent ça, ils te connaissent déjà, pour la plupart. Mais est-ce que tu as eu quelques résultats en suivant cet événement?
Pour ceux qui me connaissaient peut-être un peu déjà, ça renforce des liens un petit peu. Et puis je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui m'ont découvert, que ce soit par les vidéos de peut-être de GLC, je dis n'importe quoi, de Lucas, d'Amixem, et du coup ouais, après il y en a, ils se sont mis peut-être à me suivre un peu plus, et puis voilà, ouais, non, c'est je pense que ça faisait du bien de fou parce que j'ai fidélisé et en même temps j'ai attiré d'autres viewers, donc
c'est
du plus, quoi.
Et même avec tous les points de vue différents, t'avais un peu cet aspect, c'était gros et impressionnant, Mais comme c'était des youtubeurs que tu suis, que tu connais un petit peu, enfin, tu as l'impression de connaître à travers les réseaux, et qu'il y avait cette ambiance bon enfant, tout le monde est là ensemble, c'était un peu cette ambiance de quand tu vas aux cartes avec tes potes.
Ah, mais c'est
donc
ça.
Tu pouvais un peu te sentir comme si, ah, je vois un peu ce qu'ils sont en train de vivre, parce que j'ai déjà fait ça avec mes potes à une échelle beaucoup plus...
Bah en fait, moi, je filmais les off avec mon téléphone. Moi, j'étais le seul mec dans la team qui était avec mon téléphone. Comme ça, je me baladais, je filmais un peu tout. Et au montage, je gardais ce que je voulais. Et on voyait bien, c'était une ambiance colo. On était tous dans la même sauce. On a beau, y a beau quelqu'un qui a 10 millions, l'autre qui a 500 000 abonnés, l'autre qui a 3 millions. On est tous à la même échelle. Et c'était vraiment bien là-dessus. Ouais. Tu vois, il n'y avait pas de oh, « faut que je fasse attention quand je vais lui parler parce qu'il a plus d'abonnés que moi
ouais, ».
Ça n'a pas existé du tout du GP1 ou du GP2. Tu vois.
Mais je pense que tous les participants, ils sont assez bons délire dans ce sens-là. Genre, tout le monde s'entend assez bien. Toi, c'était ta première fois dans une monoplace ?
Deuxième, ouais. J'avais déjà fait sur le circuit de Pau un baptême. C'était mon pote qui m'avait acheté ça pour mes 25 ans à l'époque. Donc, ouais, c'était la deuxième fois. Mais première vraie fois parce que là, j'étais vraiment libre de ce que je peux faire. Parce que dans les baptêmes, généralement, assez bridé dans ce que tu fais.
Parce qu'ils te font pas des tests avant, tu montes pas dans la voiture avant, enfin je sais pas comment ça s'est passé.
Tu fais des entraînements, non, je crois.
Ouais, au GP on avait des entraînements, ouais. On avait pas mal de théories avant, donc on a toujours une journée de cours où on va apprendre comment on freine, le trajectoire, le dépassement.
Ouais, j'ai regardé toutes les vidéos. Ça a l'air intense.
Et la journée d'après où on roule 4 fois le matin, 3 fois l'après-midi.
Alors, la question énorme, frein pied gauche ou pied droit ?
Ah bah pied gauche.
Bien.
Ah
bah, ouais.
Est-ce que tu peux freiner pied droit ou il y a un truc entre les deux qui bloque ?
Ah, tu peux, ouais. Il y en a qui freinaient, je pense, pied droit.
Direction, au milieu, parfois.
Il y en a qui freinaient pied droit, c'est sûr. Mais bah, pied gauche, t'es beaucoup plus réactif et tu mets plus de force directe.
Ouais.
Il n'y a rien à dire, ouais.
Et t'as eu des sacrés perfs. Des sacrées performances. On y était avec Joe et on était derrière
toi. C'était
pas mal. C'était cool,
ouais. C'était pas mal. Ouais, dommage, j'ai fait quatrième, deuxième fois de suite.
Ouais.
C'est quand même bien, mais putain, aux entraînements, on se battait avec, entre nous quatre et bah, je finis encore derrière les autres. Mais ils étaient meilleurs, tout simplement, les gars. De toute façon, pas à dire.
C'est marrant parce que vous êtes tous potes et tout ça, mais tu sens vraiment la compétition. Je parlais avec Sylvain il y a quelques mois et je lui disais alors, bon résultat quand même. J'ai pu faire ouais, mais en soi, j'aurais pu faire mieux. Ouais, tu vois,
Sylvain, lui, c'est P1 ou rien.
Compétiteur,
Sylvain,
ouais,
lui, pour le coup, ouais, il est né là-dedans et il a toujours été là-dedans. Donc, P1 ou rien. Et quand on discutait avec lui, c'était ça, c'est soit je fais P1, soit je suis déçu.
Voilà, c'est ça exactement.
Et est-ce qu'il doit y avoir quand même une décharge d'adrénaline après les quelques jours ? T'entends souvent des gros sportifs, des joueurs de tennis, des joueurs de foot, des pilotes, qui parlent de cet effet quand t'as un événement qui est tellement ouf, ouais, tellement énorme, et après tu dois retourner à ta vie classique quoi, les jours d'après. Est-ce que t'as ressenti ça un peu ou...
Ça a fait du bien les premiers jours parce que bah, ça fait un an qu'on avait la pression. Et là, pour la deuxième édition, ils nous mettaient vraiment la pression en mode ouais, faut pas faire les cons, machin truc. Du coup, un peu stress. Et après, quand ça s'est fini, je me suis dit ok, c'est bon, let's go. Sauf qu'au bout d'une semaine, deux semaines, t'es en mode putain, mais oui, mais du coup, c'est quoi qui m'anime maintenant ? Bah, je retrouve à ma vie de youtubeur classique.
Ouais. T'as pas ce goal.
J'ai pas ce petit truc au coin de ma tête qui me dit j'ai pu explorer dans quelques mois, ouais, entraînement ce mois-ci, entraînement ce mois-là. Tu vois, là, donc forcément, ça. Ça fait bizarre, quoi.
Et est-ce que ça a changé la manière que tu roules sur route ouverte ? Enfin, pas comme si tu vas rouler vite, mais je sais pas, ta manière de freiner, ta manière de regarder. Tu sens que t'es devenu un meilleur pilote conducteur.
On est tous comme ça, ceux qui font du karting ou de la piste en général. Même quand tu fais tes courses avec ton caddie, tu prends les trajets idéales, tu vois.
Ou en vélo.
En vélo, quand je suis dans les ronds-points en voiture. Et qu'il n'y a personne, j'aime bien me faire un petit kiff en mode ok, j'essaie d'amener le plus de vitesse, on va essayer de freiner plus. Bon, c'est pas ça. Là, j'aime bien me faire des délires de
sur route fermée,
je prends la corde. Et après, non, je suis loin d'être un très bon pilote. Hein. J'avoue que j'étais bon parce qu'on était tous des pilotes amateurs. Mais si tu me compares à des vrais pilotes, je suis naze. Mais c'est vrai qu'avec la théorie, avec tout ce qu'on a vu, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien me faire plaisir.
Et s'il y en a un en moto, un jour de GP en moto, ça te dirait de le faire ?
Je le ferai, ouais, c'est sûr.
Parce que vu que j'adore la moto.
Mais faire du circuit en moto, peur. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai un métier où là, je suis trop bien. Et si je me casse une jambe ou un bras, c'est chiant. Mon métier, c'est chiant. Donc, c'est pour ça que je fais pas de piste en moto et que je fais pas de grosses dingueries. Mais oui, s'il y en a un, je le ferai. Je le ferai, c'est sûr. Mais bon, faut oser se dire. Parce que là, en termes de préparation, ce sera pas pareil. Non. Là, il faut vraiment être sûr, parce que là, tu peux vite te blesser. Quoi.
Bah, la moto, c'est surtout pour tes proches aussi, c'est le
proches
stress.
Aussi, ouais. Ou alors,
déjà, j'imagine avec le GP, tes proches autour, ça doit être compliqué pour tes potes et tout, qui te voient sur circuit quand même.
Ouais, alors, ils me voient kiffer, je suis content. Ils savent que c'est des F4, ça va à 200 max. Bon, même s'il y a un accident, maintenant elles sont bien protégées, tu sais. Ouais. T'as le halo, t'as tout.
Ouais, c'est 150 chevaux à peu près,
ouais.
Une F4.
Ouais, 105, c'est ça, ouais. 160 chevaux peut-être, ouais, pour 500-600 kilos, ouais, un truc comme ça. Ça.
Quand même, hein.
Ce qui fait qu'en fait, en termes d'accélération, c'est zéro parce que c'est la même qu'une peut-être une petite Mégane ou. Voilà. Mais par contre. Dans les virages, et comment tu freines? Mais c'est un... Ouais. T'es dans un... Tu te dis, mais comment c'est possible, dans la physique, de pouvoir freiner aussi tard?
Ouais.
Comment la physique fait que je peux autant mettre de vitesse dans le virage?
Ouais.
C'est incroyable.
Par et contre, tu une prends F4, des forgés.
Une F4, ça pardonne pas. Hein. Dans les virages et tout, tu vas un peu trop, tu pars tout de suite.
Après, ouais, si tu pars en tête à queue à rattraper une F4, c'est pas comme une voiture classique. C'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, là, les sensations, mais... Oh, je me rappelle, j'avais de l'adrénaline, ça me montait là, j'étais en mode waouh, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. J'imagine pas dans une F3, dans une F2, dans une F1, voilà. Oh là.
Ouais, c'est ça le truc. C'est déjà une F4, quand t'arrives dedans, ça doit être impressionnant de ouf. Et après, tu montes, ça doit devenir.
En F1,
plus.
La sensation, mais ça doit être indescriptible.
En F1, ça pardonne un peu plus dans un sens, parce que t'as tellement de downforce quand tu prends des virages ou quoi que. Tu vas beaucoup moins partir. C'est sûr que la puissance est différente. T'as 850 chevaux contre 150. Mais c'est je pense que c'est un peu, un peu différent que la F4. Mais bon, les sensations restent vraiment toujours impressionnantes, quoi.
Toutes ces voitures, quand tu es en pneu slick aussi, tu as tellement de grip.
Ouais.
Mais du coup, le plus tu pousses les physiques, le plus quand tu passes la limite, ça te pardonne pas. Mais... Donc, c'est ça le truc, la réaction va être tellement plus rapide. Et ensuite, si tu pars en tête à queue, c'est comme tu dis.
Par rapport à une F1, une F2, là, sur la F4, on n'a pas de direction assistée.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire que quand on tourne le volant, des fois, tu sens que c'est très dur. C'est-à-dire que moi, au bout de peut-être 15-20 minutes, tu sais, je commence à avoir mal aux avant-bras, tu vois. C'est pour ça que c'est bien aussi de s'entraîner au niveau des bras. T'as pas de direction assistée. Donc, pareil, si tu perds la voiture et que le volant se met d'un coup à tourner, là, ça peut te casser un bras, quoi, tu vois. Donc, faut faire attention
là-dessus. Vrai.
Ce qui est un peu, ce que je trouve un peu tape-cul dans une F4 aussi, c'est changement de vitesse quand tu rétrogrades et tout.
Ouais.
C'est beaucoup plus agressif.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Tu sais à quoi tu t'attends,
mais c'est trop bien, par contre.
Ouais,
oh là là, ouais, c'est trop bien. Tu sens la voiture, tu la sens vivre. Après, non, t'arrives à la sentir vivre, à sentir que là, elle va bientôt décrocher, que là, en termes de freinage, t'es au bord du blocage de roue. Oh là là, mais comment c'est... Oh là, c'est incroyable.
ça se voit que t'as vécu genre le truc. Et ce qui est difficile, c'est ensuite, sûrement pour toi, enfin, tu dois avoir tellement envie de rerouler dans une voiture de course, une voiture de F4, et limite l'accès que vous aviez tous. Était tellement ouf que je suis sûr que là, maintenant, tu réalises aussi à quel point c'était dingue. Parce que d'y retourner, de refaire quelque chose comme ça. Ouais.
Et c'est pour ça aussi que j'en avais conscience par rapport à certains. C'est que je savais que ce qu'on faisait là, ça coûtait des centaines de milliers d'euros.
Ouais.
Y en a, ils n'étaient peut-être pas au courant que monter dans une F4, faire ce qu'on a fait là, c'est très cher et surtout très réglementé. Et là, on avait quand même beaucoup de liberté. Donc j'étais conscient, c'est pour ça aussi que je profitais au max. J'étais vraiment à pression mentale à fond. Et non, vraiment, c'était fou. Et la F4, oui, ça coûte très cher. Le sport auto, en général, ça coûte très cher. Et moi, si je me suis mis à la glisse, c'est parce que ça coûte un petit peu moins cher et c'est amusant. Alors, t'as moins l'esprit compétition parce que c'est de la glisse, tu t'amuses, c'est du fun. T'as pas de chrono, machin. Mais par contre, ça coûte beaucoup moins cher. C'est juste, allez, quelques entretiens de la voiture. Tu peux prendre une voiture un peu merdique. Les freins, ce qui coûte très cher en sport auto, parce que tu dois freiner le plus tard possible, ça coûte très cher. Mm. Ça use la voiture, le châssis. Là, c'est juste de la glisse. Donc, c'est tes pneus. À la rigueur, moi, mes pneus avant, je les ai depuis maintenant 7-8 mois. Je les ai pas changés. Les pneus arrière, ok, je les change peut-être à chaque session, mais c'est des pneus, tu vois, je les prends à la casse ou j'en sais rien, j'ai un contact, ouais, j'ai des pneus pour toi, est-ce que ça, ouais, vas-y, je prends.
Ouais, donc c'est...
Les jantes, je m'en fous, tu vois, donc ça coûte vraiment pas trop cher.
Et tu vas souvent, quand même ?
C'est une fois par mois en général, ouais, une fois par mois. Après, quand j'ai des tournages, ça peut être deux fois, mais.
Ouais, j'aimerais trop, on devrait se faire une journée comme ça.
Bah, tu viens, le circuit, il est à 20 minutes d'ici, c'est le circuit de l'OEAC. Le hack, c'est connu pour le rallycross.
Ouais. Mm-hmm.
Mais c'est un très grand circuit de cartes connu dans la France entière, voire même, non, peut-être pas dans le monde, mais dans l'Europe, on va dire. Ouais. Est un circuit asphalte, on va dire, pour faire du grip ou de la glisse.
Ok, trop cool.
À côté du musée, parce que t'as le musée de l'OEAC aussi.
Et là, est-ce que toi, t'as une voiture, une voiture goal, une voiture que t'aimerais pour rouler, même tester, pas nécessairement acheter, mais juste.
Ma voiture de rêve.
Ouais.
Ouais, j'en ai une.
Ouais, voilà.
Ça fait longtemps que je l'ai. C'est malheureusement pas une BM.
Ah, ça change.
C'est une marque, ouais, j'avoue que c'est la concurrence. Mais cette voiture-là, vraiment, elle est magnifique. C'est la 190E Evo 2.
Wow. Attends, ça c'est ma voiture.
Allez. Ouais, ils nous en parlent tout le temps, Cédric aussi.
C'est une voiture, mais j'ai des frissons. J'en parle. Elle est incroyable. Elle est d'une beauté.
Oh là c'est là. Incroyable comme
caisse. En fait, c'est Mercedes qui, pour aller en TTM, devait créer une voiture de série. Ils en avaient créé 500, je crois.
Ouais, à peu près.
Du coup, elles sont toutes numérotées. Et du coup, voilà.
T'as eu les Evo 1 et les Evo 2.
Ouais, t'as les Evo 1 et les Evo 2.
Et cette voiture, c'est juste incroyable. Par contre, les prix que ça vaut aujourd'hui, c'est.
Les prix, c'est entre 2 et 300 000.
Ouais,
j'ai regardé il y a un an. Après, ça a peut-être changé suivant le kilométrage, suivant le numéro que tu as aussi. Si t'as le numéro 1, peut-être ça coûte plus cher aussi, peut-être.
T'en as une qui s'est vendue à Vegas, là. Elle avait 5000 km.
J'imagine pas le prix,
498 000 euros.
Ouais, parce que souvent, c'est
juste pour le kilométrage. Parce
qu'au moins 50 000, tu vois.
C'est ça. C'était des voitures pour rouler à l'époque. Bon, après, la puissance, tout ça, c'est pas.
Non, c'est pas non plus.
Ça explose.
Pas, ouais, rouler, ça doit pas être le truc.
Mais c'est un look.
Mais le look, quoi.
Le look
en fait, c'est la concurrente de la M3E30.
Exact.
Et de la Audi Quattro.
C'est ça, exactement.
C'était les trois là. Mais
c'est celle qui a explosé.
Elle est extrêmement bodybuildée, tu vois.
T'as très bon goût, je dois dire.
Magnifique.
Est-ce que t'en as déjà vu une en vrai?
Putain, non, j'en ai pas vu.
Ah ouais?
J'avais l'occasion, mais. Je sais pas aller la voir, elle était trop loin. Mais je crois qu'on en a une en Bretagne et je crois qu'il y en a une en Normandie.
Ah, si tu veux,
ou peut-être deux.
Très très rare, non?
Je crois qu'il y en a une en Bretagne, pas loin. Mais souvent, ces voitures-là, malheureusement ou heureusement, avec la France d'aujourd'hui, avec un peu la jalousie des gens, les gens veulent se cacher, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Les gens veulent pas dire qu'ils ont cette voiture.
On vient de faire la Mille Emilia à Dubaï cette semaine, un peu plus tôt. Il y a un gars, il s'est ramené avec une Evo 2, 13 000 km. Et il a dit, écoutez, moi, je fais la course là, mais après, je la laisse au hangar et elle va dormir.
Ah ouais.
Plus jamais la sortir. Ouais, tu vois, c'est un peu ça. Bon, en France, c'est encore différent. Mais ça, les voitures...
Ouais.
Incroyable cette voiture, mais je pense qu'elle va valoir tellement de cher.
C'est ça, et ça me fait tellement mal au cœur parce que c'est des voitures qui... font rêver, mais qui petit à petit deviennent si inaccessibles que tu dis tu pourras plus jamais les acheter. Et pourtant, c'est une voiture de rêve pour tellement de gars comme nous à notre âge. Je veux dire, c'est quelque chose dont on rêve.
En fait, les anciennes voitures, tu as un charme que tu ne retrouveras pas, c'est des voitures récentes. Tu vois, t'as ce truc, même quand tu la conduis, le fait de d'avoir aucune assistance, de sentir quand tu tournes, de sentir quand ça. C'est indescriptible et t'as pas ça sur les voitures trop
récentes. C'est une ère magique du design aussi. Vous pouvez faire pas complètement ce qu'il voulait, mais tu pouvais sortir des trucs comme ça avec des ailerons dans tous les sens, complètement rien à voir avec les autres voitures. C'est comme quand la Countach est sortie, on en a parlé avant, juste on allait déjeuner. Enfin, ils ont pété un câble quand même. Ouais. Maintenant, quand tu la regardes, il y a tellement de voitures qui ont suivi dans le design après, mais t'imagines à l'époque, quand il y a des voitures comme la Evo 2, quand il y a les voitures comme la Countach ou quoi qui sortaient, c'était différent. T'as plus trop des designs comme ça qui sortent.
Maintenant, en fait, ils veulent rester dans leur confort, tu vois, zone de confort.
Ouais, c'est ça.
Ils font des trucs qui sont sûrs de vendre.
Et tout se ressemble, tout, il n'y a plus de puissance, enfin, il n'y a plus de, disons, d'émotion, quoi que ce soit. Je pense aussi, dans un peu dans le même style de voiture, c'est aussi une caisse dont je rêvais pendant un moment, c'est une Nissan Skyline GT-R R34.
Ah ouais.
Et ça, c'est devenu mais démesurément cher, quoi.
Surtout si tu veux la vraie importée de Japon.
Exactement.
Mais t'as eu ce coup de cœur pour cette voiture grâce au film ou
C'est un peu des films qu'on regardait en grandissant. Après la 190, ça c'est vraiment les trucs que tu voyais dans les magazines. Ouais. Quand t'étais petit, on ouvrait les pages, on était genre waouh, ça je veux ça.
Ouais.
Et ouais, aujourd'hui il faut garder un peu d'argent de côté pour pouvoir s'en acheter.
Ah bah non. Et le modèle série. La BM, la exclusive, ils en ont sorti 50.
La CSL,
là.
La M3, la
M4 CSL.
Non, celle super rare à 750 000. Là.
Il y en a combien? La 3 litres CSL, là.
Ouais,
CSL,
c'est ça.
T'en penses quoi, toi, de ça?
Elle est jolie. Après, c'est 700 ou 800 000 euros. Maintenant, c'est beaucoup plus parce que pour acheter ça, je pense qu'il fallait être soit dans les clients ultra VIP de chez BM,
100%.
Soit acheter en même temps tout le catalogue, quoi.
Ouais, exact. Ouais.
Et sortir une BM à ce prix-là, ça te fait pas mal au cœur.
Le problème, c'est que c'est des cash grabs, je trouve, aujourd'hui. Les marques, enfin, je sais pas ce que t'en penses, hein,
dis-moi aussi,
mais je pense que les marques sont en train de recycler leurs modèles phares de l'époque. Je pense notamment maintenant à l'Alfa 33 Stradale qu'ils vont refaire. Ouais. À 33 exemplaires, 1,7 million.
C'est la mode du vintage maintenant.
C'est ça.
Même la moto, c'est pareil. C'est la mode de faire comme à l'époque.
Mais tu sais ce que c'est ? C'est parce que tu as les personnes qui ont grandi avec ces voitures-là qui maintenant sont en tête de ces boîtes-là. Tu vois, donc eux, c'était leur voiture de rêve quand ils grandissaient. Tu vois, c'est comme nous, les Evo 2, etc. Ou je sais pas, les 430 Scoot, les voitures qu'on avait dans nos chambres en poster. L'âge où les personnes de notre génération vont arriver aux têtes de ces boîtes-là, je suis sûr qu'on voudra faire des reproductions ou reprendre.
Mais pas à ces prix-là.
Ok, oui, c'est vrai. Ouais. Après, le truc, c'est que on dit ça, mais ils les ont vendus
sold out.
Comme ça. Ouais.
Oui,
donc en vrai, ils auraient pu mettre double
les côté, ils vont se dire, on va toutes les vendre, machin, mais je suis sûr à 200% qu'elle ne va pas prendre de valeur, cette voiture.
Tout ce qui est limité.
Oui, mais pas autant. Ouais.
Surtout, après, BM, c'est parce que c'est une marque ultra connue. C'est pour ça aussi. Moi, si c'est une marque un peu qui sort de nulle part, qui fait ça, une édition limitée, on s'en branle. Mais BM, c'est là depuis je ne sais combien d'années. Moi, je pense qu'il y a moyen que ça prenne de la valeur.
Mais pas
ce qui est
100 000 déjà.
Ah ouais, mais il n'y en a que je ne sais combien. Et c'est BMW. Ouais.
Tu en mets
dans
une.
Dans le monde, il y a tellement de gens riches maintenant ou très riches.
Ouais, ça fait peur quand même, le nombre de...
Et puis maintenant, c'est aussi la société. Moi, j'ai ça, pas toi. Tu vois, montrer que t'as ça et pas toi.
C'est exactement ça.
C'est ça aussi, tu vois.
Et ça, c'est la fine ligne qui, des fois, est un peu dure à gérer sur les réseaux où t'as quelque chose dont t'es fier et t'as envie de montrer pour partager, pour donner ton avis. Tu vois, par exemple, dans l'automobile. Et entre le être mal compris pour juste envie de montrer quelque chose que t'as. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En fait... Dans l'auto, ou je sais pas si t'es quelqu'un qui adore les montres, les youtubeurs de montres, etc., ça peut vite passer pour. En fait, t'essayes juste de montrer que t'as cette montre ou cette voiture ou ça. Tu dis, non, en fait, c'est une passion, c'est pas une question nécessairement de la valeur du truc. Tu peux prendre autant de plaisir en circuit de glisse avec une voiture qui vaut un peu moins que sur circuit en F4. C'est la passion, pas de la valeur de l'objet, mais pour l'expérience que l'objet te donne en lui-même.
Exactement.
C'est ça que. Mais je trouve que dans YouTube, surtout français aussi, l'automobile est très bien compris. Il y a une grosse passion de l'automobile en France.
Oui.
Donc, moi, sur YouTube, j'ai toujours été dans l'auto. Et tu sais jamais, en rencontrant d'autres YouTubeurs, si vous aimez les voitures, si en vrai, toi, t'es le geek un peu automobile que personne ne comprend trop. Mais
le Jackie.
Ouais, voilà, le Jackie. mais en vrai, genre, j'ai remarqué, tout le monde a quand même une... Pas tout le monde, mais la plupart des personnes que j'ai rencontrées dans ce milieu-là ont quand même cette petite passion pour l'automobile. Et ça réunit tellement, parce que tu peux arriver... tu vois, je sais que t'aimes des BM, parfait. On peut déjà commencer à parler BMW, partager un truc.
On va en parler pendant des heures.
Et c'est ça qui est magique, je trouve, dans l'auto. Toute passion, c'est pareil avec les jeux vidéo, tout ça.
D'ailleurs, on t'a même pas demandé ta collection de voitures.
Ah oui, ma collection personnelle de voitures.
Bah oui.
Vous voulez que je vous dise ?
Fais-nous rêver
Allez.
Un petit peu.
Alors, qu'est-ce que j'ai ? Bon, j'ai une M3 F80 compétition.
Magnifique. Que tu as modifié un peu, non ?
Que j'ai un petit peu modifié, ouais, que j'ai rabaissé. Donc, j'ai mis un peu du carbone. J'ai mis les KW, tu sais, en... Comment ça s'appelle,
ouais,
ça,
pour abaisser un peu.
Ouais, combiné filté. Vraiment polyvalente, en mode je peux faire de la route, je peux faire de la piste, je peux faire de la glisse, tu vois, parfait. Je suis bien. Ma petite voiture. J'ai Renault Patrick. Voilà, Renault Patrick.
Magnifique.
J'ai une... ça, c'est mon petit bébé. J'ai une 328i. Ouh, ouais.
Bon.
100 000 km.
Bon, ça.
Je l'ai acheté à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a 2 ans. 12 000 balles. Déjà, elle vaut plus cher. Et surtout, vraiment, elle est, tu la vois, mais elle est clinique. T'as l'impression, elle est de 97, c'est une phase 2. T'as l'impression que t'es à l'époque.
Ouais, ouais.
J'ai une 325 TDS E36 aussi. Voiture un peu, pour faire le con, parce qu'elle a 320 000 bornes. Mais par contre, elle est, esthétiquement, elle est comme neuve. Elle est blanc alpin, berline. Nickel. Mais oui, c'est un diesel. Et c'était pour me rendre compte aussi, mais BM à l'époque, ils avaient fait un diesel tellement coupleux, tellement incroyable, sûr, ouais, et tellement ouais. fiable. Vraiment, ouais. J'adore. Dans les ronds-points, ça glisse, tu vois.
Ouais.
J'ai pour terminer en E36, j'ai acheté une M3 E36 aussi que j'ai retapé, qui est bientôt terminée. J'ai acheté il y a un an.
Ah, trop bon.
Donc je l'avais acheté, ouais, 18 000 et là j'ai mis peut-être 7-8 000 euros de travaux. Là, elle va être comme neuve.
Ouah, trop bien.
Et ce qui est bien, c'est que je tiens à le noter, c'est que BM, bon après ça coûte cher, mais BM fait encore des pièces, ouais, de E36.
Ah ouais.
Donc, okay. J'ai racheté ça, des feux, j'ai racheté un capot, j'ai racheté un coffre, j'ai racheté un ciel de toit.
Je savais pas du tout ça.
Et ça, c'est incroyable ça. Ouais.
Ça, c'est génial chez BM, ouais, comme tu dis.
Juste
c'est...
les baguettes, je mets du temps, et les panneaux de porte. Parce qu'à l'époque, ils aimaient bien tuner le E36 et mettre des énormes sonos, trucs. Donc, ils coupaient, ouais, bref, ils faisaient de la merde. Du coup, il me faut des panneaux de porte. Ça, c'est assez chiant à trouver, mais bon. Voilà. Ouais. Après, j'ai...
beaucoup de BM, ouais.
325 TE 46, donc... voilà, ouais. Là, je rachète ce mois-ci la M3 E30 de mon père.
Oh, magnifique.
Trop
donc,
bien.
Donc, j'ai une M3 E30. Là, pour le coup, ça sera la plus chère, hein.
Ok, mais c'est quoi l'histoire du coup, enfin, c'est...
L'histoire de cette M3 E30,
ouais.
Mon père l'a acheté en 2008, 1800 euros à un mec, un papy dans une grange. Elle était, ok certes, elle n'était pas en bon état, mais il a eu pour peut-être 15-20 000 euros de travaux. Et maintenant c'est une voiture qui vaut 70, quoi. Donc, ouais, donc 70 c'est encore ses minimums, parce qu'en fait sur le bon coin il y en a tellement peu, ouais. Ça dépend de l'offre et de la demande en ce moment. Mais ouais, c'est une voiture qui...
C'est fou ces histoires quand même.
Ouais, incroyable. Bah en fait c'est rare M3 E30 parce que bah... Il y en a beaucoup de cassés, il n'y en a pas eu beaucoup de créés non plus. Je crois que c'est dans les M3 où il y en a eu moins. Je crois que c'est ouais, 14 000, un truc comme
exact,
ça, 14 000
ouais,
exemplaires.
C'est peu. Enfin bon, peu.
Ce qui fait que comme c'est rare et que c'est la première aussi, première M3, bah, ça vaut cher.
Et bah ouais.
Par contre, voilà, c'est du 4 cylindres, ça
c'est un camion,
pas,
ouais, c'est ça.
Pas fort,
c'est
hein.
Ça.
Ok, c'est du bruit, mais un 325i marche, en E30 marche mieux, tu vois.
Ouais,
c'est vrai qu'il y avait une gueule cette voiture, je me rappelle.
Et j'ai une R21 2 litres turbo.
Ah ouais,
stylé ça.
Bâche, nickel, j'attends, là je vais bientôt la remettre aussi comme neuve.
Ça tu l'as depuis un moment, non?
Ouais, je l'ai acheté en 2020, 2019, ah, okay, okay. Ouais, en moment, ouais, 4 ans.
Ouais.
Mais tu kiffes les retaper entièrement?
C'est pas moi.
Ah voilà.
C'est moi j'appelle des pros, soit ouais, des pros. Ouais. Moi c'est pas juste pro BM, c'est pro E36, pro E30, pro R21 2 litres turbo, c'est pas pro Renault, c'est ouais, vraiment le mec qui connaît cette voiture par cœur.
Ouais, ça t'a pris longtemps pour les trouver, eux, les bonnes personnes
bah,
pour
ouais,
faire ces projets?
Ça prend du temps et puis ouais, faut faire confiance, tu vois. Ça peut, tu sais que ça peut te coûter cher, faut pas que le mec t'arnaque ou quoi. Parce que moi, j'avoue que en mécanique, j'y connais rien.
Ouais, moi, je suis pas.
C'est mes bébés, donc j'ai envie qu'ils soient en meilleure santé. Mais ouais, j'y connais rien. À tout moment, le mec peut m'avoir. Mais après, j'ai ma famille, j'ai mon tonton qui travaille dans la mécanique, il a un garage de voitures anciennes.
Ah oui, moi.
J'ai mon papa, j'ai mon papy aussi. Donc j'ai du monde quand même pour m'entourer. Et là, après, en termes de voitures, je crois. J'ai une Clio 3, j'ai gardé ma première Clio 3. Clio 3 grise, 2000, je crois que c'est une 2012.
Ok.
Tu peux faire des projets avec ça.
Ouais, je pense que bah là, elle est dans une grange, mais après, je pense que je vais essayer de faire un projet. Je retape ma première voiture sur YouTube, ça peut être drôle.
Ah, ouais, ça pourrait sûr. Être très drôle, ça.
Ça peut être très, très drôle. Et après, bah non, voilà, c'est tout. Après, c'est moto et voilà.
Et aussi, il y a plusieurs petits ouais, modes de déplacement là dans le bureau. Oui. Il y a oui. Le Tesla.
Le cyberquad.
Ici, j'ai le cyberquad, c'est Dobby qui l'a. J'ai des petites cartes, j'ai des trottinettes et tout. Ah, j'ai oublié aussi. Là, maintenant, bah, j'ai Nissan qui m'ont prêté une voiture. Du coup,
ah,
là, mon daily, c'est un Nissan X-Trail.
Ok.
Je m'en sers tous les jours, c'est hybride et bah, j'ai pas vomi tout en termes de confort. Bah, c'est le top, quoi. Donc, j'ai ça aussi.
Voilà. Et ça, c'est parfait pour tous
donc,
les jours.
Ça prête plusieurs mois. Après, voilà. On ouais. Change. Bon, je peux faire des stories, des vidéos et tout, mais.
Ok.
Vraiment, là-dessus, Nissan, ça fait 3-4 fois que je bosse avec eux, notamment sur la formule électrique. Et franchement, ils sont incroyables, notamment avec les influenceurs, les youtubeurs et tout.
Ouais.
Parce que c'est vrai que les marques de voitures essayent de s'approcher un peu de nous de plus en plus.
Et après, on ne sait pas trop comment on doit le prendre. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais moi, je pense que c'est une bonne chose.
Et en tant que fan auto, c'est quand même fou de te dire que tu as la chance aujourd'hui de travailler avec Nissan.
Nissan, c'est incroyable. Une marque
emblématique. Ah ouais. Et de pouvoir aller à des événements avec eux, rouler avec une de leurs voitures tous les jours, tout ça. Moi, c'est fou.
Moi, j'ai une question pour vous deux, d'ailleurs.
Ouais, vas-y.
Est-ce que vous attendiez une ascension aussi, on va dire, rapide, de 1, et que les marques vous prendraient autant au sérieux, aussi rapidement, en termes de caisse, en termes de
choses. Moi avec mon pseudo, non. Le ouais. Bouzeux, je me suis dit, bah, je pense plus tard, ça va peut-être pas m'aider.
Ouais, pas aller dans la direction. Ouais.
Comment on va collaborer avec un mec qui s'appelle Le Bouzeux, bah, quand la marque c'est nul et tout. Mais au final, le contraire, j'ai l'impression que c'est les gens, enfin les marques sont en mode, ben non, incroyable.
C'est ton image de marque, quand même.
Et après, bah, l'ascension, moi, oui, c'est allé très vite. Après, l'avantage par rapport à peut-être des mecs qui sortent de TRT ou des mecs qui sortent de télé ou de j'en sais rien, où ils sont personne et d'un coup ils deviennent énormes, bah, l'avantage c'est que nous on se prépare petit à petit parce qu'au début on a une personne qui nous reconnaît dans la rue, peut-être après 2-3, on voit les chiffres, ça monte petit à petit, même ça monte vite, ça monte, on voit que ça monte quand même, c'est pas d'un coup, donc ça va, je me suis quand même habitué. Mais voilà, et toi c'est quoi ton...
Ouais, exactement pareil, ouais, pareil parce ouais. que ben, tous les deux ça fait quand même un bout de temps qu'on fait ça. C'est vrai qu'avec les marques, ça je l'aurais jamais pensé, mais en fait, je pense que c'est même pas quelque chose auquel tu penses trop au début. Tu fais ça juste pour le fun. En tout cas, tu vois, moi, je le faisais parce que j'avais plus de place sur mon iPod Touch pour mes vidéos. Du coup, je les ai mis sur YouTube. Mmh, tu vois, c'était même pas genre une pensée de tout ça. Et donc, maintenant, quand tu regardes en arrière, tu te dis, ah ouais, c'est vrai que c'est quand même fou, mais c'est juste, c'est tellement plaisir. Tu vois, c'est comme... je sais pas, il y a pas trop de comparaison que tu peux faire, mais quelqu'un qui aime bien jouer au tennis au début, tu vois, la première fois qu'il va jouer au tennis, il va pas se dire putain, un jour peut-être que je vais jouer tous les jours et voilà, ça va être ce que je fais comme mon boulot, et juste d'un coup t'es là-dedans et tu te dis waouh, c'est quand même fou, une chance de dingue, et c'est surtout de pouvoir bien comprendre les marques, c'est ce que et les produits et les équipes derrière et le temps qui va dans tous les produits derrière, moi ça me fascine beaucoup aussi, et d'avoir la chance de rencontrer d'autres personnes dans ce milieu-là et de voir les caractères derrière, comment c'est fait du côté production, du côté business, qui l'entourage, tout ça, je trouve ça très intéressant aussi.
Et
donc,
puis c'est rentré dans les mœurs maintenant, j'ai l'impression en France, de les youtubeurs qui travaillent avec des marques, parce qu'au tout début, moi, c'était en mode, ah, travaille avec des marques, fais de l'argent sur notre dos, machin, donne l'argent, machin. Mais là, j'ai l'impression qu'en 2023, là, on arrive en 2024, maintenant, faire des placements de produits, c'est les gens sont en mode... normal, t'inquiète, il fait l'argent parce qu'il a une équipe à payer, il a un local à payer, il a du matos à payer, voilà, c'est normal.
Ils te prennent plus pour le petit gars avec sa caméra comme ça.
Ouais, voilà.
Surtout qu'avant, c'était vraiment pas vu comme un job. Ouais. Avant, c'était vu comme, tu kiffes, on te soutient, donc pourquoi est-ce que nécessairement ça devrait, tu devrais trop empocher à travers ça. Après, maintenant, la qualité du boulot sur YouTube, du travail sur YouTube, quoi, a augmenté beaucoup, donc souvent il y a plus de production derrière. Il y a aussi pas que YouTube, tu vois, il y a YouTube, il y a Twitch, il y a Insta, il y a Facebook, il y a TikTok, donc il y a tellement plus de production à mettre derrière, tu peux plus gérer ça tout seul, du coup il y a des équipes, du coup il y a des locales comme tu as dit, du coup il y a des frais qui viennent avec, donc c'est mieux compris, et aujourd'hui il y a moins cette question de ah tu fais YouTube, est-ce que t'en vis? Avant c'était la question que t'avais, je suis sûr toi c'était pareil, c'est tout le temps. Mais est-ce que t'arrives à en vivre ?
T'arrives à en vivre, mais comment ça se passe la monétisation ? Mmh. Comment tu gagnes de l'argent ?
C'est quoi le business model ?
Ça c'est vrai.
Je comprends pas là, mes fils ils vous regardent, mais là comment vous pouvez vivre d'un mec qui regarde ? Expliquez-moi.
Ouais. Ouais, c'est ça.
En parlant de ça, est-ce que tu peux nous dire ta, disons la pire expérience qu'on t'ait demandé de faire avec une marque ? Tu vois ce que je veux dire dans le sens, pas la pire.
Ouais, non, mais après, c'est vrai que ça, c'est des trucs qu'on me
demande. Tu dois pas dévoiler la marque.
À chaque fois, ça va me venir, tu vois, mais quand on aura fini le podcast, tu vois, j'arrive pas à
être sur
le
moment. Bien sûr.
Mais après, avec des marques, ouais, il y a sans doute des moments où
t'as
ça s'est
peut-être... toujours des trucs un peu...
Ouais, il y a un truc où j'avais pas eu les couilles, j'avais dit oui, et au final, arrivé sur un jour avant, j'ai dit, je peux plus, et j'avais honte, c'était Soie l'élastique.
Ah ouais.
C'était une vidéo pour promouvoir une série qui fait où ça, t'es peur, tu vois, la peur. Je dis ok, à travers, je peux faire une vidéo en mode solastique parce que c'est vraiment un truc où j'ai le vertige de fou, j'ai trop peur. Je dis ça peut-être 2 mois avant, je balance ça, il me dit oh, ok, vas-y. Je dis oh, let's go, c'est bon. Et arrivé un jour avant, je dis ah, je vais peut-être non. Est-ce que ça vous va plutôt si je mange des grillons?
Ouais, un truc chill, ouais.
Ouais, j'ai perdu mes couilles, j'avoue, solastique, c'est vrai.
C'est impressionnant.
Et du coup, alors, t'as.
J'ai pas fait. Non, j'ai pas fait parce que là, non.
Ouais, ça fait mal.
En plus, c'est l'avant-veille, j'ai une fille qui me dit « Ah non, moi je l'ai fait, mais en plus d'avoir peur, elle s'est un peu cassée. » Parce que tu sais, quand t'arrives, t'as tout, ouais, t'as ça te relève.
La pression.
Et en fait, ça, sur ton corps, il est pas prêt à ça. Et du coup, elle s'est déplacée un truc dans le dos et j'ai fait « Wow !»
Ça, c'est des trucs que tu veux pas entendre deux jours avant.
Non.
Mais je crois que le son en élastique, ça me fait limite plus peur que le son en parachute.
Largement.
Une fois, mec.
Ouais. Largement.
La remontée, là, tu vois, tu descends et tu remontes en plus. Ouais. Comment tu ne peux... Tu vomis pas, comment tu...
Ouais.
Je sais pas, il y a des mecs qui ils réagissent...
En fait, ils arrivent ils ont une qualité, c'est qu'ils arrivent à stopper leur cerveau. Tu sais, ils sont en mode, ok, je réfléchis pas, j'y vais. Mais ça, moi, je suis incapable. Tu vois, quand je suis là sur au Dupont et que je dois sauter, mais c'est impossible.
À tout moment, tu regrettes forcément.
C'est pas possible.
Ah, tu peux pas du tout.
Mais moi, juste pour revenir sur les... Sur YouTube et les marques qui vous font confiance... Je trouve ça vachement intéressant parce que moi, je suis là, j'achète une voiture et j'ai regardé peut-être 3-4 youtubeurs différents pour qui me donnent leurs avis sur du long terme, sur machin. Et je trouve ça vachement cool, en fait. Donc,
ouais, avant, tu avais peut-être plus juste un ou deux magazines.
Avant, tu regardais un magazine.
C'était moins détaillé.
Automoto ou Turbo qui te donnaient déjà leurs conseils. Non, mais c'est déjà très bien.
Oui.
Mais là, tu as vraiment une vidéo qui fait peut-être 20 minutes que sur cette voiture. Et même sur des marques comme Ferrari, Porsche, les mecs, ils leur font confiance quand même, parce que c'est quand même une Ferrari.
Ben, t'as ça et tu peux creuser autant que tu veux maintenant. Donc si t'as juste envie de savoir à la surface comment est cette voiture, voilà. c'est quoi les stats, et c'est tout ce que j'ai envie de savoir, ou j'ai envie de savoir chaque bouton à l'intérieur. Moi, je kiffe savoir comment t'ouvres le coffre dans la nouvelle Ferrari. Comment, si un jour j'ai la chance d'avoir une Aston Martin, comment est-ce que j'ouvre le capot? Enfin, des trucs comme ça, tu peux, si tu veux, tu peux aller les chercher sur YouTube. Avant, c'était plus compliqué. Il fallait vraiment pouvoir être là, toucher la voiture, etc. Tandis que maintenant, tu peux vraiment avoir toutes les infos et être quasi expert sur une voiture sans nécessairement l'avoir vue en vrai ou l'avoir roulée en vrai.
Ouais, non, c'est sûr.
Et ça, c'est une grosse qualité de YouTube. Et chacun a sa manière de le faire. Et tu as maintenant, aujourd'hui, tu as les gros magazines, les séries télé et tout, qui sont très présentes sur YouTube aussi. Et ça amène cet aspect sur YouTube aussi. Et comment ça a évolué, ce milieu-là, c'est fascinant. Et ça se
développe dans tout, d'ailleurs.
Ce qui est top aussi, quand on est là-dedans, c'est le challenge constant je dis c'est top, des fois c'est une des difficultés. Mais aussi, on a de la chance d'être dans un milieu... qui est jamais pareil, enfin, tu te fais jamais chier, quoi, parce qu'il y a tout le temps une nouvelle chose, une nouvelle idée à trouver, une nouvelle évolution à prendre. Et ça, on a vraiment beaucoup de chance et c'est top pour nous de voir ça, parce que c'est vrai que dans beaucoup de boulot, ça va être très répétitif tout le temps. Et en vrai, tu peux travailler dans YouTube pendant 10, 15, 20 ans. Et en vrai, l'évolution va toujours continuer et ça va être différent quasi toutes les années.
Et dans le classique, tu n'as jamais réfléchi à faire ça dans le classique ?
Les voitures classiques.
Ça peut être vachement intéressant aussi.
Oui, éventuellement, ça serait cool. Il y en a quelques-uns qui le font, mais pas tellement. Mais en soi, tu as des gens comme Romain, comme Seb, je veux dire, qui touchent aussi. Donc, ouais, tu vois, c'est difficile parce que vous aimez les voitures classiques aussi, que ce soit les vieilles BMW, les anciennes, trucs comme ça.
Après, j'aurais jamais un œil d'expert, tu vois. J'aurais l'œil de l'amateur qui va conduire la voiture, qui va dire ses ressentis, mais je serais pas là en mode ouais.
Parce que ça peut cartonner. Tu présentes une voiture, une ancienne, que sûrement tes parents connaissent déjà, et tu peux déjà donner ton avis sur. Pour apprendre tant de valeur d'ici 15 ans.
Ah, c'est clair. Ben là, on essaye de le faire un peu nous. Je veux dire, dans le sud, t'as peu de gens qui font ça. Dans notre région surtout, ce qui est ultra surprenant vu la concentration de voitures qu'il y a. Donc nous, on essaie d'un peu d'être les pionniers là-dedans, on essaie de lancer petit à petit, tu vois, des choses, Insta, on va peut-être faire des trucs YouTube et tout. Mais bon, ça vient petit à petit. Et comme je dis, j'ai peut-être dit que vous avez fait une ascension rapide, mais en même temps, vous travaillez depuis des années et des années à faire votre travail. C'est pas comme si vous êtes devenu connu, comme tu disais, d'un jour à l'autre non plus. Donc ouais, c'est un vrai boulot.
Après, c'est bien de dire aussi que... Il y a des gens un petit peu dans l'ombre là qui bossent peut-être même plus que nous, mais qui, voilà. En fait, y a, pour moi, il y a quand même, on a beaucoup de travail, mais une petite part de chance, tu vois.
C'est clair.
On est là au bon moment, sur le bon thème.
Absolument.
Qui fait que ça a plus directement. Mais...
Ah, c'est complètement ça. Enfin, t'as trouvé la passion pour faire des vidéos aussi au bon moment, sur la bonne plateforme.
Exactement.
C'est sûr qu'il y a beaucoup de ce côté-là, mais il y a l'acharnement derrière. Il y a trouvé les bonnes personnes dans les bons rôles au bon moment aussi. Ouais. Et aussi le faire avec des potes, parce que t'as beaucoup fait ça, avec des amis avec qui tu collaborais beaucoup aussi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et ça t'aide beaucoup, je pense, à passer à travers les années, parce que si t'es trop tout seul,
Prendre un local, moi, c'est la meilleure décision parce que bah, tu réunis des gens et en termes de créativité, tu débloques un truc de fou, quoi. Comme sur Dofus, quand t'es pas abonné, que tu dois aller au Crackball et que d'un coup, je sais pas si vous avez déjà Dofus.
Non, jamais.
Et que d'un coup, tu découvres le monde quand t'es abonné.
Le Crackball, j'ai envie d'y aller.
Ah non, vous avez pas joué, mais vrai, tu débloques un truc de fou parce que bah, on est là, on discute. J'ai des mecs qui sont là en mode montage, mais j'ai aussi des mecs en tant que photographe, en tant que. Je sais pas, ça peut être même vidéaste. Enfin, vrai. On discute entre nous quand on mange le midi. Ouais, ça peut être ça. Ouais, hop, après, ça.
Ouais, tu peux pas avoir toute la créativité tout seul.
Tout seul,
et
tu te limites.
C'est en parlant que tu vas. Quelqu'un va dire une chose qui va
ouais,
te.
Ouais, exactement.
Et maintenant, il y a tellement de choses à faire dans ce milieu-là. Enfin, la miniature, les shorts. Ouais. Là, hein, et de pouvoir un peu brainstorm avec les gens autour de toi pour pouvoir.
Toi, justement, tu as eu pendant longtemps, et vous avez toujours le groupe des Croutons.
Ouais, la
belle bande qui s'est un petit peu ralentie ces derniers temps.
Bah en fait, on était tous en début parce que bah c'était là où on faisait le plus de vues, c'était là où on était épanouis, on était à fond, c'était le début. Et après bah forcément chacun a pris sa branche et après bah voilà pour se retrouver c'est plus compliqué même si on y arrive quand même très bien. Là on repart d'ailleurs bientôt. Mais ouais vraiment les Croutons être ensemble, plusieurs créateurs de contenu ensemble à faire des vidéos et dans la bienveillance aussi. Il n'y a pas de « Oh non, toi tu fais ça, mais je voulais faire ça. » Tu sais, chacun « Ah, c'est pas grave mec, on y va, attaque. Moi j'ai ça à tourner. Ok, viens, go, go, go. Moi j'ai ça à tourner. Vas-y, concours de plongeon dans la piscine, c'est parti. Bah, » Tu vois, c'est...
Ah, trop bien.
Tout le monde est chaud pour tout le monde. Il faut partir de ce principe-là. Parce que si t'as un mec qui a la flemme, après ça va apporter un mood. Ah, il a la flemme pour ça et pas pour lui. Ouais, c'est vraiment en mode « Vas-y, on y va les gars. On est là en vacances, on arrive à vivre de ça. Vas-y, on va régaler les abonnés quoi. »
Ah, ça, c'est,
bah, c'est bien que vous avez pu garder cette amitié et faire les voyages parce que c'est comme dans tout business, appelons ça comme ça, parce qu'après ça devient quoi, des business. Des fois, quand tu fais avec des potes, il y a un petit risque aussi.
À créer une chaîne YouTube à deux, à trois, moi, c'est.
Ouais.
Moi, si vous faites ça, d'accord, mais c'est pas le conseil que je vais vous donner direct. Tu vois. Si tu peux ne pas le faire, fais-le pas.
Ouais.
Parce que créer une chaîne YouTube à deux, à trois, à quatre, à cinq, il y a des risques à un moment, quand ça va commencer vraiment à apprendre et à parler business. Ça peut être compliqué. Puis pareil sur le temps de travail aussi, parce qu'il y en a, ils vont peut-être plus. Il y en a, ils seront dans un mood de merde, l'autre non. Du coup, il y a un décalage qui va s'en vouloir, machin. Non, je pense que c'est tout seul, c'est sûr que c'est le mieux.
Mais après, c'est comme n'importe quel business. Il y en a qui veulent s'associer, d'autres non. Voilà. Nous, la différence, c'est qu'on a chacun notre business autour, chacun de notre business, et après, ça, c'est plus un plus. Quoi. Ouais. Moi, j'aurais jamais pensé faire ça.
Ouais.
Je suis pas quelqu'un qui va me montrer. Mais là, en fait, c'est juste j'y vais parce que l'expérience est folle. On entre potes, on voyage, on fait des expériences de ouf. Tu vois, dormir sur une aire de repos avec un camping-car, jamais de ma vie, je me serais dit si je le fais, c'est avec eux, quoi. Tu vois, sinon je le fais pas. Mais c'est ça qui m'a plu. Donc ouais, je reviens à ce que tu as dit. C'est les potes qui t'ont aussi mis dans ce mood. Et c'est super cool quoi.
Et vous vous inspirez l'un et l'autre, c'est ça aussi.
Ouais, c'est ça. Franchement là-dessus, on discute, on se dit ouais, ça peut être pas mal pour ta chaîne, ouais, ça, ok. Qu'est-ce que t'en penses de cette miniature? Ouais, j'aime bien, ouais. Et puis ouais, on s'inspire, on s'aide et puis on se fait kiffer après.
Comme ça, c'est... Mais à un moment, tu crées une amitié qui est. Enfin, tu n'as rien comme des frères quoi.
Des collègues à la base.
Des collègues et après.
À force de se voir dans des événements, à force de jouer ensemble tous les soirs, on se dit mais les gars, venez, on part en vacances ensemble. Et là, ça a pris de fou. Les gens
c'est fou kiffaient, comment...
ça a fait masse vue et du coup, on va continuer. Quoi.
C'est fou comment le gaming, ça te rapproche. Genre, rien que de jouer une session d'une heure le soir avec quelqu'un. Genre,
c'est fou.
Tous les, ça devient tes potes. C'est le rendez-vous, les soirs. Ça, c'est génial.
Le gaming, c'est vraiment incroyable le gaming. J'avoue que moi, je pourrais pas vivre sans jeux vidéo. Tu vois. Vraiment, j'ai besoin de ma dose quotidienne de jouer. Tu vois. Quand je sais que j'ai aucun jeu qui me plaît en ce moment, je suis pas épanoui. Tu vois. J'ai besoin d'avoir ce petit jeu qui me. Ah, je suis bien là.
Ouais, tu peux jouer avec tes potes parce que ce que tu as vécu toi aussi avec toute la bande des Croutons et tout ça, c'est quelque chose que peu de gens ont vécu aussi.
Ouais.
D'être sur YouTube et avoir une ascension folle. Enfin, c'était gigantesque l'ascension que vous avez tous eue.
C'était beaucoup, ouais. Plus pour certains, moins pour d'autres. Après, quand je vois Inox et Michou, là, c'est vraiment, ils sont dans un autre monde. Ouais. C'est-à-dire que leur planning, c'est vraiment un truc de fou. Moi, je suis déjà pas mal occupé, mais eux, en plus, ils sont jeunes. Donc. Heureusement, ils sont bien accompagnés, quoi. C'est
fou. Et d'avoir ces amis qui vivent à des échelles différentes, tu vois. qui vivent la même chose et de pouvoir discuter avec eux, je pense que c'est très important aussi.
Exactement.
Parce que si tu le vis tout seul et qu'en en fait, il n'y a aucun de tes potes autour de toi qui fait ça, c'est compliqué parce que de pouvoir voilà, discuter de qu'est-ce que tu en penses de ce monteur pour cette raison-là ou de ci ou ça. C'est...
Après, c'est bien aussi d'avoir ses potes qui ne connaissent
complètement,
rien.
Complètement, il faut les deux.
Ou vraiment, avec eux, tu discutes de tout sauf de ton métier ou vraiment, ça te permet de... T'arrives, t'es pas un youtubeur, t'es un mec de la famille, t'es un pote, t'es la bande de potes, quoi, t'es un mec normal. Quoi.
Il faut les deux pour pouvoir balancer un petit peu.
Le mieux, c'est trouver l'équilibre entre les deux.
Vraiment, vraiment être accompagné. Parce que c'est rare que dans des business, tu évolues aussi vite que dans votre monde à vous.
Là, bah après, moi, c'est à une très petite échelle.
Non, mais je veux dire, dans n'importe quel. Comme tu dis, maintenant, ils ont fait des, il a fait la danse avec les stars, je crois.
Ouais,
c'est ça
Michou,
Michou, tu vois, il change. Parce qu'il est parti du gaming, lui aussi.
Il est parti du gaming, exactement. Inox, de toute façon, toute la team, on est parti du gaming. On a tous
et vous jouez encore de temps en temps.
Ouais, on joue encore de temps en temps. Ouais. Okay. Ouais. Là, par exemple, ils ont sorti Lego sur Fortnite. On va se faire une session avec tout le monde.
T'as joué la saison OG?
Ouais, OG, j'ai joué. Vraiment. On se kiffe, quoi. On est là, on se prend pas la tête.
Fortnite, c'était un sacré truc. Ah, enfin, quand c'est sorti, ça
a révolutionné le gaming.
Absolument.
Ouais. Ils ont sorti une masterclass. Le cross-platform, le fait de free to play. Pas de pay to win. Ils ont sorti vraiment, ils ont révolutionné le monde du jeu vidéo. Le season pass de combat, des trucs comme
ça.
Mais
c'était gratuit de base, non?
C'est gratuit.
C'est gratuit.
C'est toujours gratuit.
C'est juste après, tu peux payer dans le jeu pour avoir des skins en plus. Tu vois.
Ça te donne rien.
C'est que du look, quoi.
Ça te donne rien en termes de perf, mais c'est juste des looks. Et ils se sont fait un argent juste monumental. Incroyable.
Et le fait de pouvoir jouer sur ton pote sur Switch alors que t'es sur PC ou ton pote Xbox, et tout ça, c'est fou.
Ouais, c'est vrai que ça se passe. Et là, il y a GTA 6.
GTA 6,
ouais, ils ont sorti le trailer. Ça, mais il sort en
2025.
Mais c'est quand même dingue de sortir le trailer maintenant. Pour,
C'est Rockstar. Rockstar, ils font ce qu'ils veulent, ça marchera.
Hein. Ouais, c'est vrai. Non, 10 ans, non, ça leur a pris là pour.
Peut-être plus.
Je pense que c'est entre 10 et 12, je crois, de mémoire.
Ouais, je sais pas, mais
beaucoup, c'est beaucoup. Incroyable.
Moi, j'ai hâte de voir les caisses dedans.
Moi, j'ai hâte de jouer.
Ouais, ils ont des licences en plus, je crois. Ils ont des licences. Hein.
Ah ouais?
Ouais, ils ont des licences. On verra des vraies voitures.
La Comète,
finalement. Ouais, exact, la Comète, c'est vrai. Mais ouais. ça, c'est incroyable de se dire que les gars, ils mettent tellement d'argent, ils mettent tellement de temps à créer des jeux. Bon, après, le jeu est juste ridicule. Je veux dire, tout ce qu'il y a dedans, c'est un vrai monde entier. Mais GTA 5, ça a quand même été, ça a été révolutionnaire aussi pour le gaming, on va dire.
Exactement. Ouais.
Ah, je pense qu'on a tous.
Vous avez vu le film d'ailleurs? Il y a un film où c'est des personnages et en fait ils sont dans un film. Comment il s'appelle?
Le trailer. Ah, tu veux dire par rapport à GTA?
Non, c'est en gros, c'est. Il faudrait que je trouve le nom de ce film. En gros, c'est passé sur Canal. C'est ils jouent toute la journée, ils font la même chose. C'est des comment on appelle ça dans GTA? Des
PNJ?
PNJ, ouais. T'as pas vu ce film?
NPC.
Non, j'ai pas vu.
Mais... C'est que des PNJ, tous les jours, ils font la même chose. Et en fait, ils se font tuer par des mecs qui arrivent, avec les lunettes, c'est ceux qui jouent. Et ils tuent les gens et tout. Donc un jour, le mec, il meurt comme ça, mais il revient, il se réveille.
Ah ouais, en fait, tu vis dans un monde de jeux vidéo. Ouais, c'est pas mal, le concept. Ouais, c'est regarder.
Nous, ce qu'on a testé d'ailleurs au Qatar, c'était avec Joe derrière la caméra, les réalités virtuelles, mais le vrai truc où tu es dans la salle et que tu es dans le jeu vidéo. Peut-être que je fais le vieux qui ne connaît pas trop quand je parle de ça.
Il y a ça,
et c'est impressionnant. Ouais. Et franchement, j'avais peur. Enfin, je badais, c'est un truc où on devait tuer des zombies ou quoi. Free Guy, le nom du film d'Emmerich. Hein. Mais du coup franchement, ça fait bader, quoi. Ouais. Je sais pas si vous avez pu tester, mais...
Là, tu te dis, mais putain, mais avec la technologie, qu'est-ce que ça va être dans 10, 20, bah, 30 ans exactement. Là, ça avance à une vitesse incroyable. Là, je parle comme un vieux à dire ça, mais...
T'as raison.
Non, mais c'est exactement ça. Moi, c'est une des choses que j'ai fait récemment qui m'a le plus choqué, qui m'a le plus ouvert les yeux sur ce qu'on va vivre dans le futur. Parce que la vitesse de l'évolution de tout, aujourd'hui, est quand même folle. Enfin, maintenant, quand tu... Bon, je vais vraiment faire le vieux, là, dans 2 secondes. Okay, vous êtes prêts?
Oh, le boomer.
T'es le plus jeune d'entre nous, ici.
Ouais. Quand tu regardes que t'as quand même un ordi, genre, ultra puissant là-dedans, et qu'il n'y a pas si longtemps, un ordi faisait la taille de tes bureaux entiers, tu vois. Ouais. Et tu vois l'évolution en quoi? En 25, 30 ans?
Ouais.
Quelque chose du genre. Et tu dis, où est-ce qu'on sera dans 25 ans?
C'est pour ça, hein. À la fois, il faut se dire que c'est incroyable, mais à la fois, on peut se dire que ça va partir en couille de s'affaire là.
Ouais, il y a moyen. C'est un truc. Hein. C'est ça le truc. Et toi, en parlant là, du futur, etc., est-ce que tu as des projets sur lesquels tu bosses là, particuliers, dont tu peux nous parler, ou tu vas du jour au jour, tu fais ton kiff
Moi, c'est principalement au jour le jour, tu vois. Ouais, bon, après, j'ai évidemment un planning, tu vois, j'ai mon petit Google Agenda, là, je vois, par exemple, là, soirée YouTube jeudi. Là, j'ai un pop-up pour ma marque de fringues samedi, dimanche. Ouais, j'ai des petits trucs comme ça, là.
Okay.
Mais après, en général, dès que je vais à plus de 2-3 semaines, c'est rare qu'il y ait marqué des choses, tu vois.
Ouais.
Donc après, j'ai des petits projets qui peuvent rester dans un coin de ma tête, en mode ça, ce serait pas mal que je le fasse. Mais après, ça peut se faire ou ça peut pas se faire, tu vois. Mais c'est vrai que je me prends pas, peut-être pas assez pour certains, mais je me prends pas trop la tête, tu vois. Ouais.
Bah déjà, t'as beaucoup de trucs. T'as la chaîne principale, chaîne secondaire.
Ouais, les lives. Après, les lives. TikTok et tout. Après, j'ai des lives aussi. J'ai des gens qui bossent pour moi.
Ouais.
Heureusement d'ailleurs, sinon je pourrais pas tout gérer. Mais...
Vous êtes combien maintenant? Tu t'en parles?
Ouais, je pense, on doit être 7-8 en tout.
Ok.
7-8, ouais.
Ouais, quand même. Ça fait,
Ça fait du monde. Mais bon, j'avoue qu'il y a tellement de réseaux maintenant. Et puis, si t'es pas régulier, si t'es pas actif, bah, ça sert à rien en fait.
Ouais.
Le réseau en général, le mec est pas actif, vas-y, dégage.
Ah bah, c'est exactement ça. Et le truc, c'est bah, y en a tellement maintenant entre Snapchat.
Ouais.
Tu fais Snapchat?
Non, Snapchat. Ouais, mon truc. Je fais pas, mais faudrait peut-être que je le fasse parce que je crois qu'il y a un truc.
Ouais.
Ça, c'est un peu la génération, pardon, YouTuber et tout ça aussi. C'est qu'on se dit, oui, c'est un job à part, c'est génial et tout ça. Mais en même temps, on se dit que t'as pas la sécurité. Qu'un gars qui est salarié, par exemple, pourrait avoir, c'est que d'un jour à l'autre, toute ta commu, elle peut te lâcher. Si tu fais un faux pas, c'est dangereux quand même.
Si tu fais un bad buzz, si tu fais un bad buzz, ou si un mec peut-être peut créer un truc sur toi qui est peut-être faux ou vrai, tu peux vite descendre un peu dans les oubliettes. Après, faut vraiment le faire, le bad buzz. Parce qu'en vrai, même si t'es pas trop actif ou quoi, en vrai, t'auras toujours un minimum de commu pour. Là, je pense, quand. Ça fait 8 ans que t'es là, que t'as toujours été actif. Mmh. Je pense que tu peux être un petit peu tranquille sur une belle durée.
Oui, j'espère, si t'as en tout vraiment cas, un gros bad buzz, tu vois, souvent il n'y a pas de fumée sans feu, c'est ça l'expression.
Ouais, bien,
souvent, c'est vrai. Hey mais donc du coup, il y a eu une période où quand même, ça sortait un peu de partout, il y avait des bad buzz dans tous les sens et tout. Là, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé là-dessus, mais après ça fait partie de ce milieu-là.
Ils sont tous en procès, c'est pour ça.
Aussi, mais ouais, c'est vrai que t'as pas cette sécurité là il faut constamment, enfin, un minimum, essayer d'avoir tes
faut comprendre la méta, y a une méta, et faut essayer de s'adapter pour faire en sorte que tu rentres dans cette case pour faire un minimum d'audience, quoi.
Ouais.
Pour pouvoir faire des vues et puis payer tout ce que tu as à payer, quoi.
C'est ça. Et d'où l'avantage aussi d'avoir l'équipe, parce que peut-être qu'à un moment, toi, tu vas bien comprendre l'algorithme sur un réseau, comment ça marche sur Instagram à ce moment-là, mais quelqu'un dans ton équipe va mieux comprendre ce qui se passe sur YouTube, et vous allez pouvoir en discuter là comme ça.
Ouais.
Bah, en tout cas, nous, on va tout suivre, ce que tu fais là.
C'est
sûr. Et ça a été un plaisir de ouf de venir te voir ici. Bah, je pense qu'on va devoir, je sais pas
combien de temps.
Combien de temps
là? Une heure, non?
Une bonne question.
Une heure
vingt. On se perd.
Mais t'as vu, quand t'as les casques comme ça, t'es dans ton monde, quoi.
Ah ouais, c'est incroyable. C'est comme si j'avais fait réellement, quoi. Putain.
Ouais, exact. Exact. Mais non, franchement, un plaisir d'être ici, et tu nous as vraiment accueillis tellement bien. On apprécie beaucoup.
Merci.
Et petit message aussi, si jamais vous voulez vos t-shirts, et on a des porte-clés, on a tout ça. Ouais, you drive me crazy. Il y a des casquettes, porte-clés. Il y a même des. Ah, on a un porte-clés. Oh, Joe, le stagiaire qui. Ah, tiens.
Qui fait péter.
Si tu veux, on a un sticker que tu peux te mettre. C'est le A.
Que tu peux te mettre. Ah, putain.
C'est le A, mais avec le logo.
Je pense pas qu'il soit légal en France, mais.
Ouais, non, ouais, ça, c'est le seul souci. Et on a les petits porte-clés.
Merci
comme
beaucoup,
ça, propulsion.
Avec grand plaisir.
Ouais, un petit porte-clés. Et donc tout ça, c'est dispo, le lien en dessous. Et tout le monde va
connaître.
Et puis
ça permet surtout de soutenir aussi, avec l'argent, c'est pas forcément d'en s'en mettre plein les poches, c'est surtout pour soutenir le projet.
Ah, c'est clair.
Et du coup, permettre aussi de payer par exemple le camping-car quand t'es venu là, de payer le matos, pour vraiment...
c'est exactement c'est ça.
Ça prenne, quoi. Ça, ouais. Ça, après, ça fait déjà trois saisons, mais tu vois que ça continue de prendre, tu vois.
Bah, c'est exactement ça, tu l'as bien dit. C'est, nous, on kiffe faire ça pour pouvoir partager les histoires et partager un peu les personnes qu'on a la chance de rencontrer. Et c'est pas tout le temps que tu peux vraiment t'asseoir 1h20 avec quelqu'un sans téléphone, sans rien, et juste discuter, apprendre à connaître quelqu'un. Et on est fan de pouvoir faire ça en vrai et de pouvoir partager ça. Mais c'est vrai que quand on est à une équipe de 4 et qu'on doit se déplacer partout,
Ah, ça coûte.
Il y a un
hein.
certain coût derrière, ouais, donc c'est vrai que ces choses-là, ça aide beaucoup. Donc voilà, et bien sûr, tous tes liens vont être en dessous. Merci d'avoir pris le temps de discuter
vous.
Avec nous et t'es toujours de bienvenue sur Propulsion.
Merci à vous.
On peut
gars,
se faire d'autres
vraiment.
Épisodes. Il y a encore tellement de choses dont on oui. pourrait parler. Mais voilà.
Quand vous êtes de passage en Bretagne, vous me dites.
Et toi, ah bah, pareil, avec bien. Plaisir.
Et quand je suis de passage à Monaco.
Quand tu viens à Monaco, à Genève ou n'importe, Genève. Tu nous dis.
Ouais, je vous dis.
Merci beaucoup, la famille. Merci. On est dispo sur YouTube. Abonnez-vous, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bye
ciao.
Bye.
Ciao.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast. So you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.